Vous êtes sur RTL.
Des petits matins, à demain Jérôme.
À demain.
Rien ne l'arrête et c'est à cela qu'on le reconnaît. Éric Zemmour veut maintenant supprimer le permis à points. Il l'a annoncé hier au grand jury RTL. Nous y reviendrons avec Olivier Boss dans l'éditorial politique dès la fin du journal de 7h. Et Christophe Bourou nous dira très précisément ce qui a changé depuis la mise en place du permis. C'était en 1992, n'est pas compliqué. Les morts sur les routes ont diminué par 3. L'invité politique de cette matinale est l'ancien président de la République François Hollande. Il vient de publier son livre Affronté aux éditions Stock. Pour résumer, personne n'a de grâce à ses yeux, hormis son ancien ministre Bernard Cazeneuve, Premier ministre d'ailleurs. Précision au micro d'Alba Ventura dès 7h40 avec notre ancien chef de l'État. Lui est notre ancien ministre de l'Éducation nationale. Luc Châtel est désormais président de la plateforme automobile PFA, autrement dit la voix de nos constructeurs. Et il affirme que la fin du moteur thermique menace 65 000 emplois en Europe. Il sera notre invité à 8h20 et nous évoquerons notamment les pénuries de pièces détachées, en particulier sur les semi-conducteurs. Enfin, à 2 mois de Noël et dès 7h15, nous retrouverons Pierre Herbulot pour RTL Événement. Son reportage est consacré à la flambée des prix du jouet pour Noël. 70% sont en hausse, en moyenne de 5 euros. Nous sommes le lundi 25 octobre 2021. Bonne journée à tous RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Quand Éric Zemmour fustige le permis à points.
Une mesure infantilisante que veut supprimer le bientôt candidat à la présidentielle. La présidentielle justement est à moins de 6 mois du scrutin, ce constat alarmant à Lille. Dans ce fief historique, les troupes d'adhérents au Parti Socialiste ont été divisées par 10 en quelques années. Pas d'étincelles au Vélodrome mais des fumigènes hier soir pour le 101e classique de l'histoire entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Et puis en fin de journal, plus $1 million, c'est le prix auquel ont été attribués les baskets légendaires de Michael Jordan cette nuit à Las Vegas.
La politique, Olivier Bost.
Avec ses histoires de permis à points, Éric Zemmour convoite ouvertement le vote populaire, précisément celui de Marine Le Pen.
Dès la fin du journal.
Il dénonce un racket organisé par l'État. Éric Zemmour veut la peau du permis à points. Le polémiste est toujours pas candidat déclaré à la présidentielle. Invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI souhaite tout simplement le supprimer.
C'est infantilisant au possible. Il y a des pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande qui n'ont pas de permis à points. Ils ont moins d'accidents que nous, ils ont moins de morts sur la route.
Est-ce que vous diriez la même chose des limitations de vitesse?
Absolument, c'est je dirais la
aussi.
Même
Donc
chose des
limitations de vitesse.
On remettrait le 90 km/h sur les routes nationales.
Éric Zemmour hier dans le grand jury sur RTL. Alors, plus de permis à points, qu'en pensent les Français? Patrick Hisson, vous êtes allé poser la question à des automobilistes sur l'aire d'autoroute de Toulouse sur la 61.
Eh bien, sur le chemin du retour de week-end, les automobilistes ont souvent accueilli plutôt fraîchement cette proposition.
Si on supprime le permis à points, dans ces cas-là, il faut augmenter les amendes. Donc moi, pour le permis à points, non, je ferais mieux de le laisser.
Quand on voit comment ça roule, déjà, en enlevant les points, les gens font n'importe quoi.
Certains ont aussi jugé que cette mesure était guidée par d'autres préoccupations.
Je pense que c'est une proposition faite pour attirer l'attention, particulièrement de la part de ce candidat, mais comme d'autres. Voilà.
Au contraire, ce conducteur audois a repris une partie des arguments d'Éric Zemmour.
Permis à points, c'est ça. C'est intéressant pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Celui qui a de l'argent, il peut passer des stages à passer 4-5 points, vous récupérez 4-5 points, vous recommencez, vous faites des bêtises et voilà. Moi, nous, on habite dans la montagne noire et je peux vous dire que si un jour vous n'avez pas votre voiture, vous allez à point d'endroit, hein, parce qu'il n'y a pas de car, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien du tout. Hein.
Enfin, cet automobiliste de 7 a choisi de répondre avec humour à la question.
J'adore les bons points. Ça me rappelle la petite école. Donc, je suis pour le permis à points s'il y a une image au bout.
L'image peut-être du prochain président de la République.
Patrick Hisson, correspondant de RTL à Toulouse.
Alors, quels effets le permis à points a-t-il eu sur la mortalité sur les routes chez nous depuis sa mise en place depuis près de 30 ans? Ce sera l'objet de notre brigade RTL dans un quart d'heure. Il répondra à 8h moins le quart aux questions d'Alba Ventura. François Hollande est l'invité d'RTL ce matin.
L'ancien président publie son nouveau livre « Affronté », publication à moins de 6 mois maintenant de la présidentielle. Alors qu'Anne Hidalgo a lancé ce week-end à Lille sa campagne pour 2022 et ce constat alarmant dans la capitale des Flandres, pourtant considérée comme un bastion historique de la gauche avec Pierre Mauroy. Seuls 132 militants sont désormais à jour de cotisations dans la ville, Franck Hanson.
Oui, derrière le beffroi de Lille, le siège de la FEDPS du Nord comptabilise à peine plus d'un millier d'adhérents votant au dernier scrutin. Des troupes divisées par 10 en quelques années. Sylviane et Pascal, militantes de longue date dans la région.
Mais il y a des traîtres aussi. Hein. Il y a quand même eu des belles choses qui ont été faites par le Parti Socialiste. Je ne comprends pas que les gens qu'ils aillent vers les extrémistes, etc. Ça nous inquiète quand même. Hein.
Le problème de tous ceux qui ont bénéficié du Parti Socialiste à une époque pour être propulsés sur le devant de la scène, quand ça leur profite plus à eux, ils crachent dans la soupe.
Jean-Michel, ancien élu à Villeneuve-d'Ascq, pointe certaines erreurs de la dernière présidence socialiste, mais il espère rebondir.
On a eu des déceptions. La fin du quinquennat de François Hollande, je ne l'ai pas bien comprise. Mais bon, le socialisme est une idée qui continue, comme disait l'autre, il continue à faire son chemin, bien au-delà des hommes.
Après 35 ans au parti, Jean-Marie, qui a côtoyé Pierre Mauroy, a rendu sa carte pour rejoindre La République En Marche.
C'est un parti d'élus, on n'écoute plus ses militants. À chaque fois qu'on entend parler du Parti Socialiste maintenant, c'est surtout sur les places. C'est plus un parti d'ouvriers, c'est plus un parti de débat non plus. Je ne sais pas comment ça peut remonter un jour.
Chez les fidèles du parti, on espère voir la roue tourner.
Un reportage de Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord. Et dans le même temps, Arnaud Montebourg, lui aussi candidat, a estimé hier qu'il n'y avait pas, hormis autour de son projet, d'union de la gauche possible au vu des querelles qui la traversent.
On en vient à cette enquête ouverte à Bordeaux après ce qu'on peut qualifier de fusillade.
Dans la nuit de samedi à dimanche, deux CRS ont tiré 17 fois sur une voiture qu'ils tentaient d'interpeller, Philippe de Maria.
Oui, ces CRS patrouillent à pied lorsqu'ils entendent un véhicule faire rugir son moteur. C'est un T-Roc Volkswagen qui remonte en sens inverse la rue du Mirail. Mais il est bloqué rapidement par une autre voiture qui arrive, elle, dans le bon sens. Les fonctionnaires tentent de se porter à sa hauteur, mais le conducteur recule à vive allure et prend sur sa gauche la rue Saint-François. En marche avant, cette fois, il accélère très fortement, sauf que deux CRS se sont abrités dans cette rue et font face au capot du SUV. Il tire à 17 reprises. Le véhicule est retrouvé vide plus tard sur les quais. Un homme blessé à la nuque se dissimulant en bord de fleuve est interpellé. Le véhicule était recherché. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.
Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. J-60 avant de déballer les cadeaux au pied du sapin de Noël et la facture risque d'être salée. RTL a mené l'enquête et épluché des centaines et des centaines de pages de catalogue. Constat sans appel, 70% des jouets voient leur prix augmenter de près de 5 euros. Rendez-vous à 7h15 pour cette enquête de Pierre Herbulot.
Une pause et dans un instant, quand l'intelligence artificielle fait avancer la lutte contre le cancer du sein. Restez avec nous, il est 7h06. Bonne journée à l'écoute d'RTL.
RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin.
La suite du journal, il est 7h07 sur RTL. Il risque de toucher une femme sur huit en France. Le cancer du sein, la campagne d'Octobre Rose, entame sa dernière semaine.
Le moyen de mettre en lumière la maladie, mais aussi les traitements. Et justement, l'intelligence artificielle pourrait bien faire avancer les choses. À l'Institut Curie, premier centre européen de prise en charge des cancers du sein en Europe, tous les prélèvements des patients seront désormais, dès la fin de l'année, examinés avec un ordinateur. C'est une petite révolution. Odile Pouget a poussé les portes du laboratoire pour RTL.
Un immense laboratoire au troisième étage de l'Institut. C'est ici, sur des paillasses d'un blanc immaculé, que débute le travail des pathologistes.
Alors là, on a des pièces opératoires prélevées hier.
Le professeur Anne-Vincent Salomon, chef du service de pathologie.
C'est impressionnant, mais parce qu'il y a du sang. Là, il se trouve que c'est un sein entier. Alors là, il est dans une boîte sous vide et il va être donc ouvert et pris en charge ce matin par la pathologiste de permanence.
Prélevés après opération ou biopsie, les échantillons de tissu mammaire sont disséqués, congelés, découpés en micro-lamelles.
Je vais les mettre dans la machine là-bas qui va les colorer.
Déposés sur des lames de verre et enfin scannés.
Donc on a un petit bouton qui permet d'ouvrir la porte. C'est une espèce de tourelle dans laquelle on place des racks.
Laetitia Furman, ingénieure, scrute sur son écran d'ordinateur les cellules cancéreuses. C'est là qu'entre en jeu l'intelligence artificielle.
Là on voit les noyaux des cellules tumorales. C'est les noyaux qui sont colorés ici en brun. On cercle notre zone d'intérêt. L'algorithme ensuite va directement compter le nombre de noyaux positifs.
Chaque année, 50 000 prélèvements arrivent dans le service. Tous vont être numérisés. L'intérêt pour les pathologistes, c'est de gagner du temps. Les algorithmes travaillent 24 heures sur 24 et ne sont jamais fatigués. Mais il y a bien d'autres perspectives. Anne-Vincent Salomon.
Les algorithmes d'intelligence artificielle nous aident à repérer les cellules tumorales qu'on n'arrive pas à voir avec nos outils actuels et celles qui seront susceptibles de mieux répondre au traitement.
Des diagnostics plus précis et des traitements qui pourront ainsi être ajustés au mieux, c'est aujourd'hui l'immense espoir des médecins.
Odile Pouget pour RTL. En bref, le Soudan face à un coup d'État. Les mots d'un des leaders de la révolte dans le pays alors que des hommes armés arrêtent ce matin des dirigeants gouvernementaux chez eux. Après des semaines de tensions entre autorités de transition civile et militaire, sur place, l'Internet est également coupé.
Il est 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. En football, le bal classique au MPSG n'a pas vraiment livré ses promesses hier soir.
Et un décevant 0-0 pour la rencontre qui clôturait la 11e journée de Ligue 1. Paris a d'ailleurs fini la rencontre à 10 après l'expulsion d'Achraf Achraf Hakimi. Triste rencontre donc, et qui a une nouvelle fois été marquée par plusieurs incidents, Hugo Hamelin.
Oui, un match qui avait démarré tambour battant et qui s'est terminé en pétard mouillé sur le terrain. Tout d'abord, l'OM n'a cadré qu'une seule frappe, malgré plus d'une demi-heure en supériorité numérique. Matteo Guendouzi et ses coéquipiers ont préféré sécuriser le 0-0 plutôt que de risquer le tout pour le tout, ce qui laisse ce matin un certain goût d'inachevé.
Oui, oui, bien sûr, il y avait la place. Je pense que si on avait été un peu plus réaliste dans les derniers gestes, sur la dernière passe, sur le dernier centre, voilà, je pense qu'on aurait pu mieux faire devant le but, et sur les 30 derniers mètres.
Les stars annoncées, Messi et surtout Neymar, sont passés complètement à côté de leur match, tout comme quelques spectateurs énervés du Vélodrome qui ont balancé des objets sur la pelouse au moment des corners parisiens. Triste spectacle pour les milliers d'autres qui ont encouragé l'OM de tous leurs poumons.
Les jeux de bouteille, c'est hors de question, ça me fait mal au cœur et je comprends pas la réaction des supporters et je comprends pas non plus le jeune qui est monté sur la pelouse. Moi je pense qu'il faut savoir poser ses limites et là actuellement ça dépasse, ça va trop loin, il faut savoir dire stop.
C'est surtout la Ligue professionnelle de football qui risque de dire stop, l'OM pourrait se voir retirer un point au classement pour ses débordements.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Paris reste donc leader du classement devant Lens. Les 100 heures vainqueurs hier 4-1 face à Metz. Nice est troisième après sa très belle victoire 3-2 contre Lyon. Match nul 1 partout entre Lorient et Bordeaux. Victoire de 3-2-1 à Reims. Rennes s'impose 1-0 contre Strasbourg. 3-1 entre Monaco et Montpellier.
Le foot toujours avec le Real qui resteront en Espagne.
Les Madrilènes ont remporté le Classico hier 2-1 face au Barça pour le compte de la 10e journée de Liga. En Angleterre, c'est historique. Manchester United humilié hier sur sa pelouse 5-0 face à Liverpool, triplé notamment de Mohamed Salah.
À jamais le premier, c'est le titre de une de l'équipe ce matin.
Avec un Fabio Quartararo souriant en tenant un drapeau français, le Niçois de 22 ans a offert hier à la France son premier titre de champion du monde en MotoGP. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'impose devant Lewis Hamilton sur le Grand Prix des États-Unis et renforce son avance en tête du classement. Enfin en rugby, Toulouse, toujours leader à l'issue de la 8e journée du top 14, victoire hier de La Rochelle 39-6 face à Toulon.
Plus d'un million de dollars, vous avez bien entendu, il fallait au moins ça pour s'offrir une paire de chaussures de légende.
1,200,000. Anyone in the room? Sold 1,200,000. Congratulations.
1,200,000 dollars, un peu plus d'un million d'euros. Les baskets du début de carrière de la légende de la NBA, Michael Jordan, ont été vendues aux enchères cette nuit à Las Vegas. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis et c'est clairement une vente à l'image de Michael Jordan, une vente qualifiée d'exceptionnelle.
Elles sont blanches, montantes, avec une virgule rouge. À première vue, rien d'extraordinaire, mais elles ont été portées par la star absolue du basket. C'était en 1984, lors de sa première saison avec les Chicago Bulls. Michael Jordan commençait à en imposer sur les parquets, même s'il ne deviendra champion NBA qu'en 1991. La paire qui vaut 1,5 million de dollars, on ne connaît pas encore l'acquéreur, est une paire de Air Chips. La mythique Air Jordan viendra un peu plus tard. Si elle est exceptionnelle, cette vente n'est pas un record. Des baskets portées par le rappeur Kanye West ont été vendues 1,800,000 dollars, achetées par un groupe d'investisseurs, car les chaussures de sport rares intéressent les fans. Elles sont aussi devenues un marché spéculatif, un placement qui peut valoir de l'or.
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Marseille.
Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 10, le 8, le 5, le 11, le 4, l'As. La dernière minute, c'est le 4, Maki.
Et le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crépin.
RTL Matin. Yves Calvi.
La politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous revenez bien évidemment sur le grand jury d'Éric Zemmour sur RTL. C'était hier avec ce constat. Éric Zemmour est dans une tactique politique limpide, Olivier.
Oui, ce qui est bien avec Éric Zemmour, c'est qu'il ne s'est pas totalement départi de son côté commentateur.
C'est pas faux.
Quand il parle de politique, il résonne à haute voix. En part de marché, il a aspiré une part du vote Fillon aux Républicains, une part du vote Le Pen, et il en veut plus. Il y a les bourgeois, comme il dit, les CSP+, et il veut le vote populaire.
Alors, pour quelles raisons raisonnent-ils comme ça politiquement ?
Eh bien, leurs électorats avec Marine Le Pen sont aujourd'hui quasiment parfaitement complémentaires. Et les deux candidats sont dans une concurrence frontale. Pour affaiblir Marine Le Pen et continuer de progresser dans les sondages, Éric Zemmour a besoin d'aspirer encore les électeurs de la candidate du Rassemblement National. Ensuite, Éric Zemmour l'a théorisé, toujours à haute voix, devant les anciens de la Manif pour tous la semaine dernière. Pour réussir son entreprise, les bourgeois ne suffiront pas. Il lui faut un soutien populaire. tout à sa stratégie, ouvertement assumée. Il les qualifie même. Il veut les ouvriers, les employés et les chômeurs.
Mais il a même parlé de ghetto à propos de ces catégories.
Ah oui, toujours la force des mots et la violence des formules. Éric Zemmour reproche à Marine Le Pen d'être devenue le parti communiste des années 2020. Elle fait des scores honorables, mais ne dépassera jamais le vote purement protestataire, coincé donc dans son ghetto. Par la même occasion, cela lui permet d'utiliser un autre angle d'attaque contre Marine Le Pen. Il tente de la gauchiser.
Mais alors comment Éric Zemmour compte-t-il capter cet électorat populaire ?
Eh ben, nous en avons eu une démonstration parfaite hier sur RTL. Il a annoncé dans le grand jury vouloir supprimer le permis à points, revenir aux 90 km/h. Il ne rejette pas les doutes sur le réchauffement climatique. Il veut cesser, en fait, d'emmerder les Français, pour reprendre une célèbre formule. Ces mesures sont simples et ne coûtent rien dans l'immédiat. Pour tenir les deux bouts de son électorat, Éric Zemmour ne se départit pas d'une vision très libérale sur le plan économique. Le pouvoir d'achat, ce n'est définitivement pas son truc.
Bon, alors comment Marine Le Pen réplique à cette tentative de captation de son électorat ?
Ah bah alors, elle répète que sauver la France comme le martèle Éric Zemmour, ça ne remplit pas les assiettes. Elle promet de rendre 200 euros par mois aux ménages, sa façon à elle de garder son électorat populaire. Marine Le Pen répète aussi qu'Éric Zemmour ne cesse de diviser les Français et elle dénonce un propos outrancier, brutal, excessif. Marine Le Pen n'a plus que sa modération à opposer aujourd'hui à Éric Zemmour.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur le site rtl.fr. À 7h40, je vous le rappelle, c'est François Hollande qui est aujourd'hui l'invité d'Alba Ventura. L'ancien président socialiste publie un nouveau livre intitulé « Affronter ». Il vient de paraître aux éditions Stock et dans lequel il n'hésite pas à tacler l'ensemble de la classe politique. Rendez-vous donc dans moins de 30 minutes.
Yves Calvi, RTL Matin.
7h16, c'est donc, vous l'avez compris, l'une des propositions choc d'Éric Zemmour. Hier, sur notre antenne, au cours du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, supprimer le permis à points. Christophe Brou, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes bien entendu notre spécialiste automobile à la rédaction d'RTL. Éric Zemmour explique que ce permis à points n'a pas sauvé de vie en France sur les routes. Est-ce que cette affirmation est exacte ?
Eh bien non, selon l'Observatoire interministériel de la sécurité routière, le permis à points a bien contribué à faire baisser le nombre de victimes. Depuis la mise en place de ce système en 1992, on est ainsi passé de 9000 à quasiment 3000 morts, soit 3 fois moins de décès sur les routes. Au total, plus de 86 000 vies ont ainsi été épargnées, tout en divisant par 7 le nombre de blessés graves.
Et alors, toujours, hein, selon la sécurité routière, grâce à ce permis à points, les Français ont su finalement modifier leur comportement.
Et oui, pour preuve, contrairement aux idées reçues, eh bien, une large majorité des conducteurs possèdent encore l'intégralité de leurs points. Près de 8 sur 10 ont aujourd'hui encore leurs 12 points, et moins de 1 sur 10 ont perdu tout leur capital.
Dans son argumentaire, Éric Zemmour explique que cette baisse du nombre de tués est essentiellement due au progrès de nos voitures.
C'est juste, hein, si l'on regarde les progrès considérables de ce qu'on appelle la sécurité passive dans nos voitures, on peut citer les airbags ou encore plus récemment le freinage d'urgence, cela a déjà largement contribué à sauver des vies et à réduire par 4 l'impact des accidents en 15 ans. Toutefois, cela ne permet pas encore d'avoir une sécurité maximale, même si on y tend avec les voitures autonomes.
Enfin, Éric Zemmour cite également l'exemple de la Suède, qui n'applique pas le système du permis à points et qui a moins d'accidents. Est-ce vrai ou faux ?
Vrai. La Suède fait partie des meilleurs élèves européens. Ramené au nombre d'habitants, c'est 2 fois moins de tués qu'en France. En revanche, les contrôles y sont plus sévères. Pour l'alcool, c'est quasiment tolérance zéro. Et pour la vitesse, le réseau secondaire est majoritairement limité à 70. 110 sur autoroute, avec quelques portions à 120. Dans les endroits dangereux, pour vérifier la vitesse de tous, les radars peuvent se déclencher de façon aléatoire. Enfin, l'amende est plus salée, elle est proportionnelle à vos revenus, comptez en moyenne 2000 euros pour à peine quelques kilomètres au-dessus de la limite.
On comprend mieux toutes ces notions. Merci infiniment Christophe Brou pour cette mise au point. Dans un instant, RTL événement avec Pierre Herbulot qui a mené l'enquête sur le prix de nos jouets. Il constate une augmentation pour 70% des produits et des magasins. Gros plan dans un instant sur ce nuel bien particulier qui s'annonce.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h19, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Et à 2 mois de Noël, RTL Événements s'intéresse ce matin au prix des jouets que l'on retrouvera sous le sapin. Une enquête de Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous avez comparé les prix affichés dans les catalogues de jouets des plus grands revendeurs avec ceux de l'an dernier. Plus de 1200 pages feuilletées et 6000 jouets comparés. Le résultat est édifiant.
Hein. Oui, 70% des jouets affichés dans les catalogues voient leur prix augmenter par rapport à l'an dernier, plus
4,97 € par jouet. C'est une moyenne, il y a évidemment des disparités, mais en gros, 5 €, c'est la hausse qui revient le plus souvent. Par exemple, dans le catalogue La Grande Récré 2020, à la première page, la corbeille de naissance Sophie la Girafe est affichée à 30 €. Vous ouvrez le catalogue de cette année, à la même place, vous avez la même fameuse corbeille, mais affichée à 35 €.
Nous sommes bien d'accord, on parle exactement du même jouet, Pierre. Il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est carrément la même photo. Parfois, c'est très impressionnant. Chez Jouet Club, vous avez une page dédiée à Mickey, déjà présente dans le catalogue de Noël dernier. Dessus, vous retrouvez un tambour, un micro, une guitare, une batterie et une trottinette. Ça fait plus 3, plus 4, plus 5, plus 5 et plus 10 €. On vous a mis des exemples sur RTL.fr.
Qu'est-ce qui augmente le plus, Pierre ?
Alors, vous avez trois catégories de jouets particulièrement touchés par la hausse des prix. Ceux en bois, les jeux de construction. Ceux avec de l'électronique, les robots, les voitures télécommandées. Et les jouets volumineux, là, c'est assez hallucinant. Par exemple, le ponycycle chocolat, c'est un gros cheval à bascule, plus 40 € en un an. Ou encore, et c'est le prix qui augmente le plus, le coupé électrique radiocommandé qui passe de 179 à 255 €, plus 76 € d'augmentation.
Comment est-ce possible de voir de pareilles hausses et en un an seulement, Pierre ?
Alors, j'ai posé la question au magasin de jouets et Franck Mattet, le porte-parole de Jouet Club, a bien voulu me répondre.
57% des jouets qui sont vendus sur le marché français sont des jouets qui sont fabriqués en Asie. Et donc aujourd'hui, le contexte international de tension logistique a provoqué une hausse du coût du transport et, pour la reprise de l'activité économique mondiale, une hausse des matières. Donc les fabricants aujourd'hui font face à des hausses de coûts de transport et des hausses de coûts de matières que certains ont répercutées sur leurs jouets qui sont disponibles sur le marché français pour cette saison de Noël.
Alors quand on parle de coûts de transport, on parle des conteneurs dont le prix est passé de 1 500 à parfois 20 000 €. Les fabricants répercutent cette hausse sur chaque jouet transporté. Donc quand vous pouvez en mettre des dizaines de milliers à l'intérieur, ça lisse les augmentations. En revanche, quand vous ne pouvez en charger que 300 et des jeux volumineux, là ça fait mal.
Bah alors il n'y a pas des jeux qui s'en sortent un peu mieux quand même ?
Si, heureusement, les jeux de société résistent plutôt bien aux hausses de prix. Peut-être parce que le marché est extrêmement dynamique depuis le premier confinement, avec régulièrement des croissances à deux chiffres. Et puis même chose pour les jeux fabriqués en France, qui prennent une belle revanche sur le Made in China. Forcément, quand le jouet est construit en Normandie ou dans le Jura, il ne voit pas la couleur d'un conteneur.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. RTL événement sur le prix des jouets à retrouver sur notre site et notre application mobile.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h22, on laisse glisser la petite musique d'introduction et on retrouve avec plaisir notre pépite musicale en ce lundi matin. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on va faire un tour dans la réédition de cet album culte. L'album Osez Joséphine d'Alain Bachung a 30 ans. Un disque en partie créé et enregistré à Memphis aux États-Unis, la ville berceau du blues et du rock'n'roll, la ville d'Elvis Presley. L'idée de cet album américain dans l'âme est née à la fin des années 80 lors d'un premier voyage à Memphis. Bachung y était invité par le magazine Glamour pour un reportage sur les traces des pionniers du rock, ses idoles. Ce fut donc un rêve pour lui. Il s'est notamment retrouvé devant les légendaires studios Sun Records, là même où ont été enregistrés les premiers disques de rock. Et Bachung était entré dans ces studios. Il avait sa guitare et il avait pu y enregistrer une seule chanson. Une chanson en quelques minutes. Il avait choisi le premier morceau d'Elvis Presley gravé dans cette même pièce. C'est notre pépite du jour, le classique « That's All Right, Mama » par Alain Bachung. « Well, that's all right, mama, that's all right to you. That's all right, mama, just any way you do, yeah, that's all right. That's all right. That's all right, now, mama, any way you do. Mama, she don't tell me, papa don't tell me to you. Boy, that God you put in with, she ain't no gap for you, yeah, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Artiste. Le répertoire d'Alain Bachung.
C'est trop bien parce que j'ai envie de vous dire, le Bachung chanté américain ne ressemble pas au Bachung français.
Oui, puis là, il l'a fait à la Elvis. Voilà, Presley, il se prend pour Elvis. C'est un moment émouvant pour lui. That's Alright Mama, enregistré donc à Memphis, dans le même studio qu'Elvis Presley. Alors, Alain Bachung m'avait raconté, je me souviens, ça m'avait marqué que ce studio ne payait pas de mine, que c'était comme un placard, une petite cage, et qu'il avait eu beaucoup de mal à imaginer que de ce petit endroit au coin d'une rue étaient sortis des disques qui avaient révolutionné l'histoire de la musique. On trouve sa version de That's Alright Mama dans l'édition Deluxe, double format album du disque disque Osé Joséphine qui vient de ressortir.
Merci Anthony. On se retrouve demain et à tout moment en replay pour l'appli RTL. Je souriais parce que Laurent Gérard fait une nouvelle imitation d'Alain Bachon qui est absolument extraordinaire. J'espère qu'il va nous en faire une très prochainement.
À 8h50.
Oh là là, oui, je peux vous dire que c'est quelque chose. Dans un instant, notre point météo avec Louis Bodin, que vous avez entendu sourire. Bonjour,
exactement,
cher Louis.
Exactement, bonjour Yves.
Et notre détour par le grand studio avec les grosses têtes. À tout de suite sur RTL. Très bonne journée à tous.
RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info.
RTL 7h26. Nous retrouvons maintenant nos grosses têtes. Cet après-midi, elle vous fixe rendez-vous, vous le savez, dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Ce matin, c'est Christine Bravo qui donne son astuce de longévité aux grosses têtes.
Il est... Ouais, mais oui, absolument. Mais...
Si t'as rien à dire, tu sais,
oui, mais je n'ai rien à dire. Ici, il faut trouver à dire, sinon on est viré. Donc,
elle a pas tort. Elle a compris le principe de l'émission.
Oui, voilà, donc, plutôt que faire un blanc, même faire ça meuble. Parce que c'est de la radio. Donc à la radio, faut faire des blancs. Il faut faire des bruitages, faut faire quelque chose quand tu sais pas. Tu restes pas comme une gourdasse. Même quand j'ouvre la bouche, je fais c'est agréable pour les auditeurs.
Rendez-vous donc à 15h30 avec nos grosses têtes. Aujourd'hui, Sébastien Thoen, Stevie Boulet, Bernard Mabille, Josh Jonathan, Caroline Diamant et Johan Rioux réunis autour de Laurent Ruquier. 7h27, on va maintenant s'intéresser à notre météo grâce à Louis Bodin. Comment ça se passe?
Bah, c'est le retour de la pluie, mais c'est après le week-end, donc ça tombe bien. Il est sympa ce week-end quand même.
Très agréable.
Bah oui, pour
ce matin, j'ai eu une petite pluie fine.
Voilà, une petite pluie fine. Ça, c'est une perturbation qui est en train de glisser sur la France. Alors, elle est en ce moment de l'Aquitaine à l'Île-de-France, justement, et à la frontière belge. C'est une toute petite bande. Elle fait 100 km d'épaisseur. Cet après-midi, elle sera toujours entre l'Aquitaine, le massif central de la Bourgogne et la Lorraine. Puis, de part et d'autre, on retrouvera quelques éclaircies. Alors, il n'y en aura pas beaucoup dans le nord-ouest, en Île-de-France, ou encore près de la Manche cet après-midi, mais il y en aura un peu, avec toujours des averses. Et puis à l'avant de cette perturbation, là ça restera encore très lumineux, de l'Alsace à la Méditerranée près des Pyrénées, vous aurez encore du soleil. Puis côté température, c'est le grand écart. Ce matin, dans l'Est, on a quelques gelées parce que le ciel était dégagé cette nuit. Dans l'Ouest, on est plutôt déjà au-dessus de 10 degrés. Et cet après-midi, sera homogène. Dans la moitié nord, 14 à 17 degrés, c'est à peu près de saison. 17 à 23 degrés dans la moitié sud. Et évidemment, les plus de 20 degrés, ça sera pour les bords de la Méditerranée.
On a la chance d'avoir un tout petit peu de temps devant nous. Comment ça se projette cette semaine a priori?
Eh bien l'alternatif encore, c'est-à-dire qu'à partir de mardi, on va repartir vers un temps plus calme, plus sec, plus ensoleillé, notamment entre mercredi et jeudi. Et puis là c'est l'inverse, c'est pour la fin de semaine que le temps deviendra beaucoup plus perturbé. Et là je vous annonce déjà un week-end qui sera plus nuageux et plus humide que celui qu'on vient de vivre. Ça ne peut pas durer tout le temps. Donc voilà, une fin de semaine qui s'annonce beaucoup plus agitée.
Je m'en inquiète parce que vous avez été particulièrement précis ces derniers temps dans vos prévisions.
C'est vrai, ça marche mieux en ce moment.
Ça marche mieux, ça marche très bien, nous sommes d'accord.
Cet été, c'était un peu plus...
Nos rendez-vous dans la demi-heure qui vient, François Langlais qui nous expliquera qu'en Allemagne, une page se tourne avec le départ de la chancelière. Et puis je vous rappelle qu'Alba Ventura reçoit aujourd'hui notre ancien président de la République, François Hollande, qui publie son livre Affronté aux éditions Stock. Merci d'écouter RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 25 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence par ce sauvetage héroïque au large de la Côte d'Opale. Une embarcation transportant une quarantaine de migrants a chaviré samedi. Un hélicoptère et trois bateaux ont été envoyés sur place, mais un chalutier a aussi recueilli plusieurs de ces naufragés. Un moment intense pour le patron pêcheur Ibrahim Doukansi, qui est lui-même d'origine malienne.
Une fois arrivé sur zone, il y avait un cargo qui avait mis une petite embarcation à l'eau. Tous les migrants étaient autour de la petite embarcation. Nous, on est arrivés directement, on a demandé pour prendre les femmes et les enfants. Puis on a fait monter les hommes un par un. On leur a dit de retirer leur gilet de sauvetage, de retirer leur pull, leur pantalon, parce qu'ils étaient tous tout mouillés. Il y en avait, ils étaient en hypothermie. On leur a donné nos couvertures, on leur a même donné jusqu'à notre maillot personnel. On les a tous mis à l'intérieur, au chaud. Bon, il y avait 3-4 personnes bien affaiblies. Sinon, le restant, à part l'hypothermie, ils étaient bien cool.
Ça aurait pu être un drame, en fait.
Je pense, ouais. Nous, quand on est arrivés, ils étaient tous dans l'eau. C'est une espérance séance de vie d'une demi-heure, en tout cas. Je pense qu'on aurait plutôt repêché des cadavres que des personnes.
Ibrahim Doukansi, témoignage recueilli pour RTL par Franck Hanson.
Témoignage très impressionnant. À Mulhouse, une marche blanche a réuni environ 1500 personnes hier en hommage à Dina.
Dina, c'est cette jeune fille de 14 ans qui s'est suicidée au début du mois. Selon ses proches, elle était victime de harcèlement scolaire depuis qu'elle avait révélé son attirance pour les filles. Sa maman, Samira, a adressé un message à tous les parents.
Ma fille était une personne intelligente. Elle aimait la vie. Elle voulait être présidente de la République. Elle voulait faire du droit. C'était ma vie. Je la cherche encore. Le matin, je me lève pour la réveiller, pour aller au lycée, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle ne sera plus jamais là. Alors je vous en supplie, pour ceux qui ont des enfants, parlez-leur, dites-leur de ne pas harceler. Et pour les autres, dites-leur de se défendre. Parce que je regrette de ne pas avoir dit à Dina de se défendre.
L'émotion de la maman de Dina au micro RTL de Yannick Holland. Les sages-femmes sont en grève depuis vendredi. Elles réclament plus d'effectifs en maternité, une sixième année d'études et surtout une meilleure rémunération. Écoutez Caroline Combeau qui représente l'un des deux principaux syndicats de la profession.
Une sage-femme, c'est une première année de médecine validée, plus 4 années en école de sage-femme, donc un bac plus 5. Et à la clé, beaucoup de contrats précaires, donc des contrats à durée déterminée ou des contrats à la vacation.
Ah, visiblement, petit souci. C'était en tout cas Caroline Combeau donc, qui nous expliquait que les sages-femmes, pour l'instant, font environ 5 années d'études, pas environ, font 5 années d'études après le bac pour un salaire d'environ 1700 euros au début de la profession. Une info pratique, si vous circulez en région parisienne, l'autoroute A13 est toujours coupée ce matin. Le tunnel Ambroise-Paré à Boulogne et le tunnel de Saint-Cloud sont fermés dans les deux sens à cause d'un vol de câble.
Supprimer le permis à points, c'est donc la proposition choc d'Éric Zemmour. Il l'a fait hier au grand jury RTL, Le Figaro, LCI.
Le toujours pas candidat dénonce un racket organisé par l'État. Il souhaite aussi le retour des 90 km/h sur les routes nationales. Et puis, au chapitre social, le polémiste trace son sillon anti-immigration. Il veut priver les étrangers d'allocations.
La solidarité nationale, c'est la nation qui décide d'aider les siens. Allocation logement, allocation familiale, politique familiale ou RSA. Ça, je pense que les étrangers n'ont pas à le toucher. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'ils ne sont pas français. Si je ne discrimine pas entre français et étrangers, ça veut dire que la nation n'existe pas. Ça ne sert à rien d'avoir la France si on est étranger ou français, c'est la même chose. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent rentrer chez eux.
Mais Éric Zemmour hier au grand jury, une telle mesure est-elle seulement applicable en droit ? Question posée à Pierre Egea. Il est constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université de Toulouse.
Sur un terrain de l'égalité, c'est très compliqué. On ne peut pas faire de l'étranger une catégorie distincte du non-étranger. On peut le faire sur l'idée des droits politiques, mais sur les droits sociaux, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très claire là-dessus. Hein. On ne peut traiter les personnes de façon distincte.
L'avocat Pierre Egea, adjoint pour RTL par Lucie Brault. Au Soudan, plusieurs dirigeants ont été arrêtés à leur domicile tôt ce matin par des hommes armés non identifiés. Internet a été coupé dans tout le pays. On parle d'un coup d'État. Le pays est déchiré depuis 2 ans entre les pros et les anti-armées.
Il est 7h34. Le foot, le Classico n'a pas fait d'étincelle en clôture de la 11e journée de Ligue 1.
Non, le PSG et l'OM se sont quittés sur un pauvre 0-0. Les Parisiens étaient pourtant réduits à 10 en seconde période. Un match marqué par de nouveaux incidents, des jets de bouteilles, une intrusion sur le terrain, des fumigènes et une banderole pour insulter la Ligue. Le capitaine marseillais Dimitri Payet est écœuré.
J'ai vu des bouteilles, j'ai vu des chargeurs, j'ai vu des briquets, des choses que j'ai déjà vues contre moi, donc je sais ce que c'est. Malheureusement, il y a toujours certains qui peuvent déraper, mais voilà, on ne peut pas dire que eux, ce soit des supporters de l'Olympique de Marseille. On sait ce qu'on risque de perdre des points. Il ne faudra pas pleurer en fin de saison s'il nous en manque un ou deux. Donc voilà, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM, parce qu'ils peuvent nous pénaliser.
Dimitri Payet au micro RTL, Hugo Hamelin. Au classement, Marseille reste au pied du podium. Lens conforte sa place de dauphin avec une nette victoire 4-1 face à Metz et Nice se hisse sur la 3e marche après avoir renversé Lyon 3-2. C'est tout simplement du jamais vu. Pour la première fois, un Français est sacré champion du monde de MotoGP. Fabio Quartararo est assuré du titre après le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Hier, le Niçois n'a que 22 ans. En Formule 1, c'est Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix des États-Unis à Austin. Il conforte son avance en tête du championnat du monde devant Lewis Hamilton. Et puis, ce sont les baskets les plus chères du monde, en tout cas pour des baskets portées en match. Les Nike de Michael Jordan viennent d'être vendues pour près $1,5 million. La légende du basket les avait au pied en 84 pour sa première saison avec les Chicago Bulls.
J'essaie de savoir depuis ce matin la taille de ces chaussures. Je n'arrive pas à trouver la réponse.
Si 43 vous êtes... fillettes, je pense.
Je dirais plutôt sur un 46 voire un 48. Non, moi, je plaisante. Je crains que ce soit assez impressionnant. Alors, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une,
et
Isabelle.
Ce sera la face cachée du QR code en Europe. Oui, tout le monde s'en fichait de ce QR code. Aujourd'hui, il est devenu indispensable.
Merci Isabelle Choquet et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
7h35, François Langlais a l'air méditatif ce matin. Il pense à l'avenir de l'Allemagne.
Il s'apprête à traverser le Rhin pour vous emmener.
Alors, on a vérifié, il fait du 47,5, Michael Jordan. Ah. Ça n'a rien à voir, mais bon. Allez, à tout de suite, on part en Allemagne.
Quel bazar ce matin.
Quel bazar.
Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h37. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Langlais Co, tout de suite avec vous, François Langlais. Bonjour.
Bonjour à tous.
Un événement est passé quasi inaperçu la semaine dernière, alors qu'il marque en fait un changement très important en Allemagne.
Oui, c'est la démission du représentant allemand au Conseil de la Banque Centrale Européenne, la BCE, Jens Weidmann. C'était ce qu'on appelle un faucon. Partisan de la rigueur budgétaire, opposé à la prolongation des grands programmes de soutien monétaire que la banque apporte aux pays du Sud. Des milliers de milliards d'euros prêtés à l'Italie, à la France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ceux que les Allemands appelaient naguère le Club Med, c'était une appellation un peu méprisante.
C'est pas grave, mais enfin bon.
Weidmann quitte son poste en partie parce que la ligne qu'il défend a été défaite par l'autre camp au sein de la BCE, celui des colombes, laxistes, qui ont désormais la main. Et c'est vrai qu'après le soutien pendant la crise Covid, Christine Lagarde, qui est la présidente de la banque, envisage maintenant de financer la transition énergétique. Pour un Allemand, c'est hérétique.
Mais ça veut dire que l'Allemagne n'est plus aussi rigoureuse ?
On peut se poser vraiment la question, d'autant que déjà l'année dernière, Angela Merkel, la chancelière de droite sur le départ aujourd'hui, avait accepté le grand plan de relance européen que l'Allemagne finance ou garantit au moins sur le plan budgétaire. Ça aussi, c'était hérétique et jamais on n'aurait vu ça du temps du Deutsche Mark, la monnaie nationale d'outre-Rhin.
Ah, ça, c'est sûr que c'était une révolution politique pour les Allemands.
Révolution.
Un nouveau gouvernement se prépare. Alors, de quel côté va-t-il pencher ?
Mais changement, là encore. Cette future coalition dirigée par le centre-gauche, les sociaux-démocrates, vient de publier un texte où elle précise ses intentions. Alors, je l'ai lu hier. Le texte fait l'apologie de l'investissement public massif dans le numérique, dans l'énergie renouvelable. Révolution idéologique en Allemagne. Alors, il y a bien sûr quelques génuflexions à propos des finances publiques saines, oui, mais la liste des nouvelles dépenses est impressionnante. Alors que les auteurs du texte garantissent qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, donc il y aura plus de dettes.
Mais dites-moi, là, il me vient une drôle d'idée. C'est bon pour Paris, tout ça, parce que les Allemands seront nettement moins critiques de l'état de nos finances.
Ah, c'est tout à fait possible. On peut d'ailleurs se demander si c'est une bonne chose, parce que, au fond, c'était le seul frein à l'endettement pour les Français. Pour autant, les relations avec le futur gouvernement ne seront pas sans conflit.
Quels sont les sujets qui fâchent, pour le coup ?
Nucléaire, tout d'abord. Alors que la France s'apprête à le relancer, l'Allemagne confirme son échappée dans les renouvelables. Outre-Rhin, toutes les toitures neuves devront être recouvertes de panneaux solaires. 2% du territoire réservé aux éoliennes terrestres et les maritimes développées sur la Baltique. Le but de Berlin, c'est de faire proscrire définitivement le nucléaire des financements internationaux. C'est un casus belli pour Paris.
Ah oui.
Les ventes d'armes, ensuite. Nous avons besoin, je cite le texte, de règles plus contraignantes pour une politique restrictive en matière d'exportation d'armes. Là encore, inadmissible pour la France, l'un des premiers vendeurs d'armes au monde. Enfin, la défense européenne. Alors, c'est vrai qu'elle fait l'objet d'un engagement plus marqué de la part de cette nouvelle équipe, mais elle pourrait déboucher sur un sujet très délicat. Le futur chancelier Olaf Scholz, il avait proposé en 2018 que la France partage avec l'Europe son siège de membre permanent, celui qu'elle occupe au Conseil de sécurité de l'ONU. Vif débat en perspective entre Berlin et Paris.
Mais écoutez, nous allons apprendre à découvrir Monsieur Olaf Scholz, notamment. Merci beaucoup, François Langlais. Langlais Co est à retrouver quotidiennement sur le site RTL.fr. Il est 7h40 et même 7h41 maintenant. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
François Hollande, l'ancien président de la République, il publie Affronté chez Stock, un livre sur l'état du pays, l'état du monde et les bons et les mauvais points qu'il distribue aux uns et aux autres.
A tout de suite avec François Hollande sur RTL.
RTL Matin. Avec Yves Calvi. Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin notre ancien président de la République, François Hollande.
Bonjour François Hollande.
Bonjour Alba Ventura.
Et vous publiez donc Affronter chez Stock, un livre dans lequel vous passez en revue les défis qui nous attendent, mais pas seulement, un livre dans lequel vous passez aussi à la moulinette bon nombre de personnalités politiques. À commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. Vous qualifiez François Hollande, Emmanuel Macron, d'inconstant. Mais vous, vous n'avez pas été vous-même inconstant. Vous n'avez pas tergiversé vous-même. Si je prends par exemple le traité de stabilité budgétaire, la loi El Khomri sur la méthode, la déchéance de nationalité, Notre-Dame-des-Landes, Fessenheim.
Non, il peut y avoir des choix quelquefois qui peuvent être revus. Ça fait partie de l'exercice même du pouvoir. Le traité de stabilité budgétaire, bon, il avait été signé par mon prédécesseur. Je l'ai amendé, mais il avait été approuvé par l'ensemble des gouvernements de l'Europe. Je n'avais pas de raison de le déchirer. Et d'ailleurs, il faut se méfier de ces candidats ou ces prétendus dirigeants qui annoncent qu'ils vont renverser la table, bousculer les choses, annuler les dettes, etc. Donc c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un moment où la constance est plutôt une qualité. La constance, c'est pas simplement sur un sujet, c'est d'avoir une vision, une doctrine. Ce que j'ai dit d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pouvait avoir du pragmatisme, de la souplesse, de la plasticité, et il en fallait pendant la crise sanitaire.
Non. Vous dites qu'il prend l'air du
pas,
temps,
qu'il n'avait pas de ligne directrice. Or, ce dont les citoyens ont besoin, c'est de se retrouver dans un monde compliqué, avec des sujets délicats, difficiles. Vous ne pouvez pas changer sur la sécurité, sur l'écologie, sur même la politique extérieure. Vous ne pouvez pas penser un jour que vous allez discuter avec Vladimir Poutine pour ensuite considérer qu'il crée des tensions partout en Europe et dans le monde.
Mais vous aussi, vous avez changé d'avis. Et vous disiez, François Hollande, que vous vouliez réenchanter le rêve. Vous pensez que vous l'avez réenchanté, le rêve ?
Ah bah écoutez, il ne faut pas simplement rêver, il faut aussi agir. Oui. Dans une campagne, heureusement qu'il faut donner à espérer. Parce que si vous êtes dans une campagne, vous dites, vous savez, surtout, il n'y aura aucun changement, mon thème était le changement, et bien les Français restent à la maison. Or, si vous lisez bien le livre, je pense qu'une des données possibles du prochain scrutin, c'est pour ça que j'interviens, c'est celui de le risque de l'abstention. L'abstention, elle a déjà été très forte aux élections régionales et départementales. Elle avait été forte aux élections municipales, mais on pouvait dire c'est à cause du virus. Là, il y a beaucoup de nos concitoyens, malgré tous les efforts qu'on pouvait faire pour les informer, qui disent nous, pour l'instant, nous ne voulons pas prendre notre part. C'est ça qui est, à mon avis, la menace principale pour notre démocratie. Et c'est qui permet d'ailleurs aux populistes de tout poil de surgir à un moment du débat.
Vous vous attirez les foudres des macronistes. François Hollande, le technocrate par excellence qui incarne l'immobilisme, dit Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique.
Vous pensez que je vais répondre ce matin à ces questions-là?
Mais quand on
parce que ce qui est en cause là, parce que pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pas simplement de tracer le bilan de mon successeur comme de mes prédécesseurs. Ce qui est en cause, c'est d'expliquer aux Français ce qui les attend après les élections. Or, vous avez déjà une trace. Vous avez le prix de l'énergie qui continue d'augmenter et qui restera à un haut niveau. Vous avez une mutation écologique. Il y a bientôt la COP26 qui va obliger à des reconversions industrielles. Et donc, dans cette période-là, ce qu'il faut, c'est qu'il puisse y avoir des lignes directrices, des doctrines. Et parmi ces doctrines, c'est le sens même de cet ouvrage, il y a la social-démocratie, il y a le socialisme démocratique tel qu'il a été pratiqué, il aura forcément évolué. Mais aujourd'hui, quand vous voyez qu'une crise comme celle que nous avons connue, la crise sanitaire, eh bien, à un moment, il faut l'intervention de l'État, il faut de la redistribution si on veut réussir la transition écologique. C'est ça la contribution que j'apporte.
Je l'ai lu, votre livre. Et à vos yeux, le seul président qui vaille, c'est vous. Pourquoi ne pas sortir de l'ambiguïté ? Présentez-vous. Les autres s'effaceront, vous êtes un ancien président. Allez-y ! Pourquoi ne pas sortir de l'ambiguïté ?
Je vous remercie pour cette invitation. Mais je n'ai pas du tout, dans ce livre, fait un panégyrique de ce que j'avais fait. J'ai même reconnu, dans un ouvrage précédent, les erreurs que j'avais pu connaître. Toute action politique et autre, d'ailleurs, est forcément contrastée. Mais qu'est-ce que peut faire un ancien président ? Il y en a deux aujourd'hui vivants. Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Il y avait Giscard d'Estaing aussi.
Non, Valéry Giscard, il est décédé, hélas.
Pardon.
Mais il peut contribuer à sa vie professionnelle, à sa vie familiale, mais il peut aussi donner des réflexions. Je vois que Nicolas Sarkozy ne manque pas également de propositions, parce que c'est ça le rôle d'un ancien président, c'est pouvoir utiliser son expérience internationale notamment pour éclairer les Français sur ce qui peut se produire.
Vous, effectivement, votre expérience, mais vous distribuez quand même les bons et les mauvais points. On va s'arrêter un instant sur Anne Hidalgo, la candidate PS, vous la trouvez déterminée. Vous parlez quand même de candidature lilliputienne à gauche. Elle tente tant bien que mal de se relancer, c'est ce qu'elle a fait samedi à Lille alors que Ipsos lui prédit 5% d'intention de vote. Vous dites ce matin, il faut absolument sauver le soldat Hidalgo ?
Je pense que Anne Hidalgo s'est maintenant lancée dans la campagne. Jusqu'à présent, c'était une affirmation. Là, maintenant, elle a mis un certain nombre de propositions. Elle va en ajouter d'autres. J'ai parlé de candidature éclatée à gauche. Mais écoutez, c'est le spectacle qui est donné.
Anne Hidalgo n'en est pas. Mais c'est votre candidate, Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo n'en est pas responsable. Mais quand même, qu'on ait 6 candidats à gauche, c'est quand même un aveu que une bonne partie de ces candidats, je ne parle pas d'Anne Hidalgo, sont déjà dans le renoncement par rapport à une présence au second tour. Anne Hidalgo, elle représente ce que j'appelais le courant social-démocrate, à elle, et je crois qu'elle a commencé de le faire, de s'affirmer, de proposer, de convaincre. C'est ça une campagne électorale.
Quand
si j'ai
dit,
aussi une expérience à donner, c'est qu'une campagne présidentielle, elle commence au mois de janvier. Avant, c'est les préliminaires, c'est tout à fait légitime, les candidats se préparent, d'autres sont choisis, mais c'est à partir du mois de janvier qu'une candidature, j'espère que ce sera celle d'Anne Hidalgo, se détache pour apparaître comme une solution.
Donc c'est elle que vous soutenez vraiment. Vous dites ce matin que c'est la meilleure.
Ben, je suis cohérent avec moi-même. Vous voyez, la constance, ça veut dire que j'ai toujours été engagé du côté de la gauche de gouvernement, socialiste. Anne Hidalgo représente cette famille de pensées. Eh bien, je soutiens Anne Hidalgo, oui.
Vous avez vu que même le PRG, votre allié historique, n'est pas sûr de la soutenir.
Mais qu'est-ce que ça peut me faire de que des groupuscules soient dans une position ou dans une autre? Ce qui compte, c'est ce qu'on dit au pays, c'est pas de savoir si vous êtes soutenu par telle ou telle organisation dont je ne sais pas exactement ce qu'elle représente.
Anne Hidalgo, rangée derrière l'écologiste Yannick Jadot, c'est possible ça? Après tout, elle se revendique écolo. Aujourd'hui, elle est derrière lui dans les sondages. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dynamique à créer?
Mais pour qu'il y ait une fusion de candidatures, au-delà des personnalités, il faut que ce soit sur le même programme. Il n'y a pas eu de programme commun qui a été construit sur des questions aussi importantes que l'énergie, la place du nucléaire, la croissance, la sécurité, l'immigration. Vous ne pouvez pas vous ranger derrière une candidature dont vous n'épousez pas les thèmes. Donc plutôt que de chercher des alliances, des combinaisons, il faut s'affirmer, aller de l'avant, proposer aux Français un projet et puis ensuite aller jusqu'au bout de ce qu'est la responsabilité de la France.
Parce vous que parlez c'est du pas, nucléaire.
Pardon, là aussi, je peux vous donner quand même mon sentiment, je ne serai pas le seul à le partager. Présider la France, ce n'est pas se présenter à un concours Lépine ou être simplement dans une tombola. Présider la France, ça veut dire à un moment engager notre pays sur le plan international, sur le plan militaire, sur le plan écologique, des grandes négociations. On n'est pas là simplement pour occuper la galerie médiatique pendant un temps en espérant recueillir des parrainages.
Alors il y a un sujet important, vous en parlez, le nucléaire. La phrase d'Anne Hidalgo prononcée la semaine dernière, il faut sortir du nucléaire aussi vite que possible, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ben ça, c'est une phrase pour se donner bonne conscience.
Écoutez, je pense que s'il y a une certitude, j'y reviens dans ce livre, c'est que nous aurons besoin pour la transition énergétique du nucléaire et des renouvelables. Et qu'il va falloir faire un investissement considérable et dans le nucléaire et sur le renouvelable. Penser qu'on peut se passer de l'un, en l'occurrence le nucléaire, pour tout mettre sur l'autre, c'est un mensonge. Et penser qu'on peut également écarter le nucléaire, les renouvelables, parce qu'on voudrait faire le tout nucléaire, c'est une autre erreur.
Mais là, on a besoin du nucléaire
pour
des décennies. Le renouvelable, on n'est pas au point encore. Sur l'éolien et le solaire, on n'est pas au point.
Non, mais heureusement qu'il
vous dites dans votre livre, abandonner le nucléaire est une équation impossible à résoudre.
Bien sûr, c'est ce que je viens de dire à votre micro. C'est-à-dire qu'il est très important de développer les renouvelables, et je crois qu'il y a des technologies maintenant qui le permettent, mais ça prendra du temps, de la même manière qu'il faut renouveler les centrales nucléaires qui existent aujourd'hui avec de nouveaux réacteurs, et c'est ce qui sera fait dans les prochaines années. Et c'est une négociation très importante qui se joue à Bruxelles en ce moment, de savoir si le nucléaire va être considérée comme une énergie propre, alors même qu'elle crée des déchets, c'est vrai, mais une énergie propre qui n'émet pas de CO2. Et de ce point de vue, je soutiens la France pour faire reconnaître le nucléaire pour la priorité qui doit être donc la nôtre pour la lutte contre le réchauffement
l'action
climatique.
L'action de Bruno Le Maire. Éric Zemmour était l'invité du Grand Jury RTL. Il a proposé de supprimer le permis à points. Il dit que c'est un racket gouvernemental.
Vous savez, là aussi, si on veut regarder mes prédécesseurs, Jacques Chirac a engagé une politique pour la sécurité routière qui s'est révélée extrêmement efficace. Sans doute difficile à vivre pour un certain nombre de nos automobilistes, j'en suis un, mais ça a été le permis à points et aussi les règles qui avaient été édictées, qui étaient souvent sévères, une façon de réduire le nombre de morts sur les routes et les autoroutes de 12 000 à 3 000. Donc voir un personnage qui commence à dire, pour complaire une partie de l'opinion, qu'il faut supprimer toutes les limitations de vitesse et supprimer le permis à points, eh bien je trouve que c'est prendre un risque pour la sécurité et pour la santé de nos compatriotes.
Merci François Hollande.
Merci à vous.
Et nous rappelons que Affronter, votre livre paraît aux éditions Stock. Restez avec nous François Hollande, puisque vous êtes ce matin dans l'œil de Philippe Cavrivière, si vous le voulez bien.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24.
Rendez-vous sur rtl.fr.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour Philippe, merci de nous avoir rejoints. Le président François Hollande est donc resté pour votre chronique.
Pardon Yves, est-ce que vous pouvez redire cette phrase ?
Je disais, le président de la République est resté pour votre chronique.
Bah, ça vous pose un chroniqueur quand même, ce genre de phrase, je suis désolé. Depuis le début de saison, je me suis fait la main sur du garde des Sceaux, du ministre de l'économie, du Premier ministre, bref, du sous-fifre, hein, du petit personnel. Mais là, un ex-président, bah, ça a de la gueule tout de suite. En plus, je sens François Hollande heureux d'être là, le livre marche bien, il a fait beau ce week-end, Macron a perdu 4 points dans les sondages. Si c'est pas un bon début de semaine pour vous ?
Je crois qu'on est très... On est en train de réaliser une grosse audience grâce à vous, et notamment du côté de Saint-Raphaël.
Oui, mais tous mes collègues me demandent toujours « Ah, tiens, qui a un invité ?» Oui, mais mes amis sont un peu cons, ils oublient que les invités viennent aussi un peu pour Alba Ventura, même si elle n'est pas très pointue sur les décès de président. Mais... Alors, je leur ai dit, moi... j'ai Hollande lundi, et réaction unanime de tous mes potes, ils disent « Ah, il est marrant, il est sympa, il est sympa !» Oh les gars, eh oh, on parle de l'ancien président, c'est pas un gars qui fait les grosses têtes, on lui demande pas d'être sympa, hein, c'est pas sa fonction première. Il y en a pas un qui m'a dit « Hollande, putain, il était bon en économie hein. !» Et c'est ça votre drame, François, vous avez eu des bons résultats sur la croissance et le chômage, mais après votre quinquennat, c'est comme moi si mes vannes faisaient rire vers 8h15, 8h20. Cela dit, Christiane Taubira est venue il y a 3 semaines, elle a toujours pari. Bon, et la deuxième boulette, François Hollande, si je puis me permettre, hein, c'est que vous êtes entouré de gens intelligents, comme Macron, et un type intelligent, c'est toujours ambitieux, ça peut vous trahir. Alors que Macron, il prend un Castex, un Castaner, un Bayrou, il est peinard. Yves Calvi me le confiait comme étant sa règle d'or. Il disait « Philippe, toujours s'entourer de cons ou de médiocres, c'est le secret de ma longévité. Bon, »
Écoutez, un mot justement du président Macron qui offre un chèque carburant pour 38 millions de Français. Une opération qui va coûter pas loin de 4 milliards.
Ah oui, c'est le Père Noël Macron et on est que le 25 octobre. Hein. Il a fait un chèque carburant, chèque énergie, chèque pour Marseille. C'est un Qatari, c'est Nasser, quoi, il fait des chèques. Demandez, hein, le standard est ouvert pendant 6 mois, c'est maintenant.
Alors Alba Ventura le disait précédemment dans son livre, François Hollande est très sévère notamment avec la gauche.
Bah, disons que vous êtes un peu comme Alec Baldwin, vous avez le coup de feu facile, sauf que vous le faites exprès. Voilà. Vous mettez des baffes. Macron, lui, il en prend quand il va sur le terrain, vaut mieux être à votre place finalement. Dans votre livre, vous faites un diagnostic de l'état de santé de la gauche. On est plus sur une autopsie, quoi, du coup. Hein, c'est...
Évoquons la présidentielle. Philippe, François Hollande a été clair. Il soutient la candidature d'Anne Hidalgo. Il vient de le rappeler au micro d'Alba Ventura.
Oui, vous n'avez malheureusement pas pu vous rendre à Lille pour assister à la présentation du projet d'Anne Hidalgo. Par contre, vous étiez au concert de Clara Luciani. Vous avez provoqué une petite émeute. Moi aussi, j'aurais choisi Clara Luciani entre Anne Hidalgo et Clara. Clara a plus de tubes. Bon, cela dit, Anne Hidalgo, elle n'a pas besoin de votre soutien. Elle va gagner. C'est dans la poche. C'est quasi fait, elle est large, elle a 5% d'intention de vote. Vous êtes parti à 3 et regardez le résultat. Alors, Anne Hidalgo, c'est un peu notre Hillary Clinton, je trouve. Hillary, elle était soutenue par Beyoncé et George Clooney. Et Anne Hidalgo, elle avait Martine Aubry et Bernard Cazeneuve. Donc les forces de l'ordre n'ont pas été débordées. Ils ont réussi à contrôler les fans, ça allait.
Écoutez, vous Philippe, vous êtes persuadé que si on débranche Anne Hidalgo, François Hollande pourrait tenter de sauver la gauche. Ça lui a été suggéré tout à l'heure par Alba d'ailleurs.
Moi je suis un cinéphile. Hein. Alba disait il faut sauver le soldat Hidalgo. On reste dans la métaphore de film de guerre. Moi François Hollande, il me fait penser à Rambo. dans Rambo 3, hein, pour être précis. Parce que pareil, au début, il ne veut pas revenir,
non,
Rambo.
Non.
Et il y a le colonel Trotman, il vient le chercher dans un monastère thaïlandais. Bon, Rambo, il s'en fout. Il fabrique des tongs en cuir, il ne veut plus faire la bagarre.
C'est pas ma guerre, colonel. C'est plus ma guerre.
Alors, je ne sais pas si on vous a souvent comparé à Sylvester
Très
Stallone.
Bon. Oui.
Bah, j'imagine bien. Bref, retenez qu'à la fin, bah, il revient, Rambo. Il leur pète tous la gueule. Bon, François, j'étais ravi. Traînez pas trop parce qu'il y a l'enregistrement des grosses têtes. Mmh. Il y a Chantal Latsou et Valérie Mérès. Elles vous adorent. Mais il y a aussi une Valérité. Donc, on va vous exfiltrer en hélico comme Rambo. Vous voyez la métaphore de Rambo.
Merci Philippe, on se retrouve demain matin. Bonne journée François.
Merci, tous mes voeux pour les amis de Saint-Raphaël.
Oui, on les embrasse.
Et dans quelques instants, le journal de 8h sur RTL.
RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une cette question, le Père Noël pourra-t-il se montrer aussi généreux que les années précédentes?
Pas sûr, RTL a épluché les catalogues de Noël. Résultat, 70% des jouets voient leur prix augmenter, notamment à cause de la flambée du coût des transports. Dans ce journal également, les emplois de l'industrie automobile menacés par la voiture électrique. Le permis à points, lui, menacé par Éric Zemmour. Notre enquête sur le bilan mitigé des terrasses éphémères. Et puis, où est donc passé Neymar depuis le début de la saison? L'attaquant superstar qui faisait les beaux jours du Paris Saint-Germain n'est plus que l'ombre de lui-même.
La météo, Louis Bedin.
Oui, avec le retour de la pluie, une petite perturbation est en train de traverser la France. Elle est en ce moment de l'Aquitaine quasiment à la frontière belge. Cet après-midi, elle sera toujours de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine. De part et d'autre, quelques éclaircies, mais encore des averses dans le nord-ouest. À l'inverse, dans l'est, entre l'Alsace, la Méditerranée et les Pyrénées. Là, ça restera un petit peu plus ensoleillé. Les températures, 14 à 17 degrés cet après-midi. Midi dans la moitié nord, c'est un peu comme hier, 17 à 23 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis. Votre surf de l'info.
Avec la petite culotte de Jean Castex. Alors dit comme ça, c'est un peu étrange.
Oui, ça peut un petit peu surprendre. Rendez-vous avec Cyprien Signy dès la fin du journal.
On vous parle régulièrement de la baisse du pouvoir d'achat sur RTL. Eh bien, sachez que le Père Noël n'est pas épargné. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Pour préparer votre liste de cadeaux, j'imagine, vous avez passé en revue les catalogues de jouets. Et alors, mauvaise nouvelle, les prix augmentent de manière significative.
Oui, 70% des jouets affichés dans les catalogues voient leur prix augmenter par rapport à l'an dernier, plus 4,97€ par jouet en moyenne. Le journal Licorne, par exemple, passe de 15 à 20€, le Vif d'or d'Harry Potter de 25 à 30€ et la poupée Cerisette de 30 à 35, ça c'est pour Jouet Club, mais vous avez des hausses similaires partout. Les augmentations atteignent parfois 50% du prix. Trois catégories de jouets sont particulièrement touchées. Ceux avec de l'électronique, ceux en bois et les jouets volumineux. Là, on parle parfois de 50, 60, voire 70€ de hausse pour le même jouet et en un an seulement.
Et alors, comment ça s'explique, Pierre?
Alors, j'ai posé la question au magasin de jouets. C'est la pénurie créée par la reprise économique mondiale qui alimente ces hausses de prix, explique Franck Mattet, le porte-parole de Jouet Club.
Donc, les fabricants aujourd'hui font face à des hausses de coûts de transport et des hausses de coûts de matière que certains ont répercuté sur leurs jouets qui sont disponibles sur le marché français pour cette saison de Noël.
Heureusement, quelques jouets semblent épargnés à la lecture des catalogues. Les jeux de société et les jouets made in France.
Les explications signées Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Des dizaines de milliers d'emplois menacés par la voiture électrique.
C'est en tout cas ce que redoutent les constructeurs et les équipementiers automobiles qui se rassemblent demain à Paris pour la deuxième édition de la journée de la filière auto. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
La conversion des chaînes de production de véhicules thermiques en électrique devait initialement se faire en douceur, mais la transition écologique est plus rapide que prévu.
Oui, les contraintes environnementales sont telles qu'aujourd'hui, une voiture qui roule à l'essence ou au diesel devient de plus en plus chère à fabriquer et cela va encore s'accélérer jusqu'à la disparition programmée de ces moteurs en 2035. Alors une marche forcée vers le tout électrique qui fait craindre une casse sociale car le constat est implacable. Pour fabriquer un moteur électrique, seulement 3 personnes sont nécessaires contre 5 pour le thermique. Conséquence, au moins 65 000 emplois seraient menacés d'ici à 2030 selon la plateforme automobile qui regroupe les professionnels du secteur. L'urgence est donc de repenser à la reconversion des salariés comme Renault qui transforme la production de ses usines dans le Nord en créant un mégapôle électrique qui verra non seulement assembler la nouvelle Mégane mais aussi la R5 ou encore le Kangoo électrique avec 700 embauches à la clé en CDI à l'usine de Douai, Maubeuge et Ruitz.
Christophe Bourou pour RTL.
Vous l'avez entendu, 65 000 emplois potentiellement menacés. On en reparle dans une dizaine de minutes avec avec Luc Châtel, qui est le président de la plateforme automobile. Il sera notre invité à 8h20. On pourra également lui demander son avis sur la suppression du permis à points.
Oui, c'est la proposition au choc faite hier par Éric Zemmour, invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Même le farouche défenseur des automobilistes, Pierre Chasseret, n'était jamais allé aussi loin.
Le permis à points, il y a toujours eu un débat. Il va sans doute trop loin en France. Petit exemple, nous sommes l'un des rares pays en Europe à retirer des points pour les petits excès de vitesse entre 1 et 10 km/h. Cette mesure-là mérite sans doute d'être revue pour ne plus prendre en infraction les petits excès de vitesse qui sont des excès involontaires. En revanche, revenir totalement sur l'intégralité du permis à points peut ouvrir aussi d'autres débats, comme notamment celui de l'alcoolémie au volant, comme celui des stupéfiants au volant. Comment réagir s'il n'y a plus de permis à points pour garder tout de même un peu de répression sur la route? Sinon, on risque d'avoir des chauffards qui font n'importe quoi partout parce qu'il y aurait sensation d'absence de répression.
Le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes avec Christophe Bourou pour RTL. Éric Zemmour a également souhaité le retour de la limitation à 90 km/h sur les routes secondaires, mais aussi la suppression de toutes les aides qui relèvent de la solidarité nationale, même pour les étrangers en situation régulière.
Il est 8h05 à Oyonnax dans l'Ain. Le bras de fer se poursuit entre la police et les trafiquants de drogue.
Une caméra de vidéosurveillance avait été détruite à la Disqueuse il y a 8 jours par un groupe de jeunes dans ce quartier sensible. Les images étaient impressionnantes. Elle vient d'être remplacée, cette caméra, ce week-end, Raphaël Vantard.
Le mât découpé à la Disqueuse vient de reprendre sa place au cœur de ce carrefour d'Oyonnax. Au bout, une caméra neuve filme les allées et venues à deux pas des quartiers de la Forge et de la Plaine. Ce retour rapide de la vidéosurveillance semble rassurer ses habitants.
C'est bien parce que il y a des trafics de drogue.
Je pense qu'on est un petit peu plus sécurisé de savoir qu'il y a des caméras.
Mais tout n'est pas réglé, loin de là. Alain vit ici depuis près de 30 ans. Retraité aujourd'hui, il hésite quelques minutes avant de prendre la parole. Il est témoin chaque jour d'un trafic de drogue sous ses fenêtres.
C'est infernal, les gamins, ils font que les conneries. Ils frappent à la porte, ils se barrent, ils crament des poubelles. Ça va mal finir.
Vous avez envie de partir, vous ?
C'est vrai, mais je le ferai pas parce que je veux pas qu'ils gagnent. Moi, je suis armé jusqu'aux dents. Je suis obligé. Personne ne fait rien. C'était une ville formidable. Et bien, c'est devenu une ville pourrie.
Depuis une semaine, le commissaire Olivier Béraud, directeur de la sécurité publique de l'Ain, demande à ses hommes de tout faire pour interpeller ceux qui s'en prennent aux caméras de vidéosurveillance.
On a mobilisé les services d'investigation, la police technique et scientifique. C'est la réaction, encore une fois, d'une poignée de malfaiteurs que, évidemment, la présence policière vient gêner.
Après une première série d'incidents au début de l'année, 6 policiers supplémentaires renforcent désormais le commissariat d'Oyonnax, sans effet réel, selon les habitants, sur le trafic de drogue et les actes de délinquance.
Dans l'Ain pour RTL, Raphaël Vantard. Attention, si vous êtes sur la route autour de Paris ce matin, les tunnels de l'A13 sont toujours fermés depuis hier soir suite à un vol de câbles qui empêche les systèmes de sécurité de fonctionner.
Dans un instant, notre enquête sur les terrasses éphémères qui sont bien parties pour durer. Donc on ne les appellera plus les terrasses éphémères. On va vous expliquer tout cela. Il est 8h07. Bonne journée, l'écoute d'RTL.
RTL Matin, 7h-9h30
avec Yves Calvi.
RTL Matin.
La suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan avec cette enquête ce matin consacrée aux terrasses éphémères.
Héritage de la crise sanitaire, oui. Elles ont fleuri sur les trottoirs après les confinements. À l'origine, pour aider à l'application du protocole sanitaire, mais aussi pour renflouer les caisses des cafetiers. Des terrasses qui ont complètement modifié le paysage de certaines villes comme à Paris. C'est l'enquête de notre brigade ce matin. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
À Paris, le dispositif a presque permis de doubler la surface totale des terrasses. Et forcément, ça pose parfois quelques problèmes.
Oui, 12 000 nouvelles terrasses comme dans la rue des Lombards. Quelques palettes en guise de table, des fûts vides qui font office de sièges. Le tout installé sur d'anciennes places de parking. Gilles sillonne difficilement sa propre rue le soir venu.
Plusieurs centaines de personnes qui, évidemment, la soirée avançant, l'alcool aidant, eh bien, sont de plus en plus bruyants.
L'association Bruit Paris a mené une enquête sur le niveau sonore de ces terrasses en soirée, rue des Lombards notamment. Fanny Mietlicki en est la présidente.
De nuit, on est à un niveau de 81 décibels et donc c'est bien plus fort que par exemple la valeur limite qui existe pour le bruit routier qui est de 68.
Cet été, près de 450 verbalisations ont été réalisées pour nuisances sonores sur ces terrasses.
Bon alors Valentin, dans la capitale, le dispositif devait s'arrêter au 31 octobre prochain, c'est donc dans quelques jours, mais la mairie de Paris pourrait bien le prolonger, ce sera plus gratuit, il va falloir payer, les tarifs ne sont pas encore fixés, mais il y aura des règles, Valentin ?
Oui, 1000 demandes ont été déposées par des restaurateurs. Cela leur permet d'augmenter parfois de plus de 25% leur clientèle. Mais ce qui inquiète certains riverains, c'est que la mairie a aussi reçu 6500 demandes pour reconstruire des terrasses estivales en avril prochain. Mais cette fois-ci, il y aura un cadre. Olivia Polski est maire adjointe déléguée au commerce.
On souhaitait effectivement l'encadrer. Ça avait été fait très rapidement dans le cadre de la crise sanitaire. Il faudra effectivement qu'ils puissent respecter les horaires qu'on a fixés pour ces terrasses-là de 22h avec un certain nombre de préconisations en matière de sécurité, d'accessibilité, d'esthétique.
Pour faire respecter le nouveau règlement, la mairie entend s'appuyer sur sa toute nouvelle police municipale.
La brigade RTL signée ce matin Valentin Boissé.
Le football maintenant avec un Neymar encore une fois transparent hier soir lors du classique entre le PSG et l'Olympique de Marseille.
Les deux clubs ennemis se sont quittés sur un match nul 0-0 alors que les Parisiens ont terminé la rencontre à 10 contre 11. Résultat décevant pour le PSG malgré la présence de Kylian Mbappé, de Lionel Messi et de Neymar, celui qui fut la superstar du club, semble avoir aujourd'hui bien du mal à briller, Philippe Sanfourche.
Oui, il est devenu l'ombre du fantôme de Neymar. Le génie technique s'est envolé, laissant place à un joueur lambda qui ne réussit plus un dribble, car encore faudrait-il les déclencher. Le Brésilien n'enflamme plus, n'agace même plus, il a disparu. Un seul but inscrit et encore sur pénalty depuis le début de saison. Son entraîneur tente péniblement de le maintenir à flot, alors qu'il aurait dû logiquement le sortir après le carton rouge du défenseur Hakimi. C'est encore une fois l'Argentin Di Maria qui s'est vu sacrifié. Décision politique, forcément, bien difficile à justifier par Mauricio Pochettino.
Bon, il y avait une décision à prendre et j'ai pris celle-là. Je suis satisfait de la prestation de Neymar sur ce match et j'apprécie son début de saison.
Alors que la connexion Messi-Mbappé s'améliore doucement de match en match, Neymar dévisse dangereusement au point de se demander jusqu'à quand le PSG pourra le protéger.
Philippe Sanfourche pour RTL. L'OM 4e au classement ce matin. Lens reste 2e derrière le Paris Saint-Germain après avoir battu Metz 4-1. Nice à la 3e place après avoir renversé Lyon 3-2. Notez également la victoire de Rennes sur Strasbourg 1-0. Monaco a battu Montpellier 3-1. Match nul 1 partout entre Lorient et Bordeaux. Et puis Reims s'est incliné à domicile 2-1 face à 3.
Et puis un exploit historique en Grand Prix Moto. C'est un pilote français qui est désormais champion du monde.
Fabio Quartararo est certain de remporter le titre, suite à l'abandon et la chute hier de son dernier rival lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. La victoire du jeune niçois de 22 ans, salué par Christian Estrosi, le maire de Nice, lui-même ancien pilote de moto professionnel.
Nice est aux couleurs de Fabio pour cette performance historique. Place Masséna sur tous les panneaux de la ville. Il sera sur les rames du tramway de notre cité. Et nous l'accueillerons triomphalement, mais c'est un garçon modeste. Il sait l'éducation qui est la sienne. Nous allons célébrer Fabio. Ce sera, je n'en doute pas, un moment extraordinaire et exceptionnel. Sa ville l'attend, les bras ouverts, pour célébrer son champion. Nous sommes très très fiers. Nous lui réserverons l'accueil qu'il mérite.
Voilà une grande fête à Nice. Son maire, Christian Estrosi, était l'invité hier soir dont refait le sport avec Isabelle Langer.
Sa ville l'attend les bras ouverts. Merci beaucoup, c'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. On avait fini, hein ?
Oui, c'est terminé.
J'ai eu un doute, soudainement. Bon, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ces histoires de petites culottes là ?
La petite culotte de Jean Castex, Yves.
Moi, je suis stupéfait. Voilà. Dans un instant, vous venez d'entendre, c'est Cyprien Sini.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Pas lancer le sort de l'info avec bonjour Cyprien Sini, vous sortez avec la petite culotte de Jean Castex.
Ah, Jean Castex, Jean Castex. Vas-y, on voit le jingle.
La vie doit être plus forte.
Papy et mamie, aillent chercher les enfants.
Réunion, open space, couloir.
Y a pas de quoi s'appeler.
Nouvelle aventure formidable dans la vie de notre Premier ministre. C'était samedi, dans une rue commerçante de Laval, en Mayenne. Jean Castex et son équipe se baladent tranquillement. Ça discute avec les commerçants et puis d'un coup, surgit une commerçante sur le pas de sa porte qui lui dit « Alors écoutez bien, ça peut surprendre.
Oui. » « Bonjour monsieur le ministre, déboursez ma petite culotte. »
Il n'est pas plus surpris que ça.
Oui, hein, alors, okay. Comme ça, au réveil, ça peut être étonnant. Je vous le remets.
Oui.
Bonjour, monsieur le ministre. Déboursez ma petite culotte.
Vous avez bien entendu. Une dame demande au Premier ministre s'il a bien reçu sa petite culotte. Alors,
donnez les détails, quand même.
Notre Jeannot, forcément, oui. Il marque un temps d'arrêt. Oui. Et là, un sourire éclaire son visage et il se dirige vers la dame. Et la surprise.
C'est vous, madame.
Ah, ben, il n'y a pas que moi. Bon. Moi et mes collègues.
Alors, il n'y en a pas assez.
Il n'y en avait pas assez.
Il n'y en avait pas assez.
Oui, il voulait encore plus de petites culottes, le Premier ministre.
Donc, mi-amusé, mi-inquiet par cette affaire surréaliste de petites culottes de Jean Castex, on a cherché à comprendre et on est tombé là-dessus.
Pourquoi envoyer des culottes à Jean Castex ?
Ça date d'avril dernier, BFM TV, en fait, des magasins de sous-vêtements avaient envoyé des culottes pour protester contre la fermeture Covid des magasins de lingerie jugés non essentiels. Et il dit qu'il n'en a pas eu assez des petites culottes, Jean Castex. Mais à l'époque, on nous expliquait...
En 24 heures, on est quand même passé à 200 culottes.
Ouais, il en a quand même reçu 200 des culottes, Jean Castex. Et pas n'importe quoi en plus, hein.
Une culotte noire avec une petite dentelle, des culottes en fait confort.
Je lui ai envoyé une culotte avec de la dentelle, un petit peu jolie quand même.
Culotte en dentelle et tout. Bon après, comme il l'a raconté à la commerçante de Laval samedi après-midi, il les a pas donné à Madame Castex non plus les culottes. Hein.
Vous savez que j'en ai fait donc.
Ah ben oui, on avait demandé.
Voilà.
C'est fait. Eh ben c'est bien.
C'est fait. Bon. Et j'ai reçu récemment une association qui m'a remercié. Alors j'ai quand même rappelé que j'étais pas pour grand chose. Hein.
Oui, bah voilà. Ça c'est sûr. Enfin, notre Jeannot sur un malentendu. Il a quand même saisi l'occasion, hein, samedi.
Merci encore, hein, madame.
Oh, je vous en prie.
Et donc, ça veut dire que si vous seriez prête à poursuivre vos envois.
C'est ça.
Si nécessaire. Si nécessaire.
Ouais, au cas où. Décidément, un peu coquinou, ce Jean Castex, comme quand il avait retrouvé cette vieille connaissance lors d'un déplacement dans le Gers et que Quotidien avait capté cet échange.
En attente de souvenirs, là, hein.
Oui, tu te rappelles. Ouais. Tu n'avais pas des livres de femmes nues, toi.
Ah, ça fait. Non, on va changer de...
Femme nue et petite culotte. Parfois, c'est assez étonnant ce qu'on appelle l'enfer de Matignon. En attendant, à bientôt pour un nouvel épisode des aventures de Jean Castex.
La vie doit être plus forte.
Papy et mamie aillent chercher les enfants.
Réunion open space couloir.
Pas de quoi s'appeler.
Oh, le jingle est merveilleux. On vous retrouve ce soir quand même.
Absolument, on défait le monde. 18h40, 19h.
A tout à l'heure, Cyprien.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24.
Rendez-vous sur rtl.fr. RTL Matin.
8h19. Bonjour Luc Châtel.
Bonjour Yves Calvi.
Ancien ministre de l'Éducation nationale, vous présidez désormais la plateforme automobile PFA. Et nous vous recevons ce matin car vous nous dites que l'emploi dans le secteur de l'automobile est actuellement en vrai danger pour cause de transition écologique. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Ce qui se passe, c'est que l'automobile traverse à la fois une crise sans précédent liée au Covid, puisque l'automobile est sans doute le seul marché qui n'a pas redémarré depuis le premier confinement, puisque nous sommes à moins 20 en termes d'activité, de vente, et que nos usines aujourd'hui ont un taux d'activité de 65 à 70 %. Et que en parallèle, dans le pire des contextes, nous devons mener une transformation historique, hein, une révolution, qui est le passage à l'électrique.
Mais ça veut dire que la généralisation des moteurs électriques est en train de mettre sur le carreau un certain nombre d'employés en France ?
Alors, nous avons indiqué depuis que nous sommes engagés dans cette transition, c'est-à-dire depuis 2018, je rappelle qu'en 2018, c'est une date importante, la filière automobile française décide de prendre un virage historique, d'accompagner le changement climatique, d'être apporteuse de solutions face à ce changement, et donc d'aller vers l'électrique. Nous avions indiqué au pouvoir public à l'époque, y compris européen, que le rythme de cette transformation était important. C'est-à-dire qu'il fallait du temps, à partir du moment où elle était décidée, pour que le tissu industriel, notamment la sous-traitance, les 4000 PME de la filière de sous-traitance française dans l'automobile, s'adapte, prépare les investissements de demain et effectue ce virage. Nous assistons depuis à une accélération sans précédent. Accélération qui est à la fois liée au nouveau règlement, puisque l'Union européenne a mis sur la table en juillet dernier une nouvelle volonté d'accélérer cette transition. En 2030, hein, puisqu'on nous demande de baisser à nouveau de 55% les émissions de CO2 par véhicule à l'horizon 2030. Et d'autre part, on envisage de mettre un terme définitif aux ventes de véhicules thermiques. Pour l'instant, c'est 2035 qui est sur la table, mais on sait qu'il y aura de nombreux amendements pour avancer cette date.
Alors, il se trouve que vous avez été partenaire quand même de ce travail mené avec les autorités politiques. La généralisation des moteurs électriques va-t-elle vraiment mettre, on signale ce chiffre depuis ce matin sur l'antenne d'RTL, 65 000 personnes au chômage.
Il faut bien expliquer à vos auditeurs...
Vous corroborez ce chiffre
Oui, absolument. Ce chiffre vient de chez nous, vient de l'Observatoire, plus exactement
j'entends
de la métallurgie.
Bien, mais vous nous le confirmez.
Je vous le confirme. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, avant la crise Covid, nous estimions à moins 15 000 emplois l'impact de la transition vers l'électrique. Nous sommes aujourd'hui à 65 000. Et je ne vous cache pas qu'il y a un scénario du pire, hein, qui est celui où on a du mal à encaisser cette transition et où on a un impact qui est supérieur à 100 000 emplois à horizon 2030.
Plus de 100 000 emplois potentiellement menacés.
C'est un des scénarios sur lesquels nous travaillons. Il faut bien expliquer à vos auditeurs pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez, changer de mode de propulsion, c'est une révolution pour l'automobile.
Oui.
Puisque pendant 100 ans, nos constructeurs ont fabriqué des moteurs thermiques. Ils ont d'ailleurs été les champions en la matière.
De plus en plus performants et de moins en moins consommateurs.
Absolument. Nous avons une expertise en France des moteurs thermiques de petite cylindrée absolument unique au monde. Hein, je rappelle qu'en une dizaine d'années, nous avons baissé de 46% les émissions de CO2. Nous avons divisé par 10 l'émission de particules. Donc il y a eu des efforts absolument considérables. Tout ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'on nous dit, en 2030 ou 2035, plus de moteurs thermiques. Donc il faut inventer autre chose. L'autre chose, c'est l'électrique. C'est une technologie complètement différente. Il faut 7 mois moins d'ouvriers pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur diesel.
Il faut 7 fois moins d'ouvriers pour fabriquer
absolument.
Un moteur électrique,
D'autant homme, on va dire.
Classique.
Absolument. Donc ça veut dire qu'il y a des pièces qui ne seront plus produites. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui risquent de disparaître, qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Et de l'autre côté, nous avons des métiers qui vont émerger pour fabriquer des pièces qui n'étaient pas utilisées aujourd'hui pour des moteurs thermiques. Donc c'est une révolution totale dans l'approche technologique de l'automobile.
Je reviendrai sur les chiffres dans quelques instants, mais où en sont nos constructeurs français justement dans la fabrication, dans le domaine de l'électrique ? Est-ce que ça bouge ?
Ils ont pris un virage extrêmement rapide, puisque quand vous regardez aujourd'hui le catalogue de nos constructeurs, que ce soit PSA, ex-PSA,
je ne vois que des pubs pour des voitures électriques.
Et vous voyez le nombre de véhicules qui sont aujourd'hui, il y a 3 fois plus de véhicules électriques qui sont aujourd'hui vendus en catalogue, disponibles, on va dire, que c'était le cas il y a 3 ans. Donc il y a eu un effort considérable. Ça a été rappelé tout à l'heure dans votre reportage. Il y a des investissements massifs en France. C'est le cas de Stellantis en Lorraine, qui a voulu localiser la production de ses moteurs électriques, demain de ses batteries avec le projet ACC. C'est le cas de Renault à Douai, qui a tout un projet autour de l'électrique. Donc c'est un peu un nouveau départ pour l'industrie automobile. Ce sont les investissements massifs qui vont avoir lieu en Europe. Et la question, c'est comment la France est dans le coup. C'est ça l'enjeu. Et c'est l'enjeu de la journée que nous organisons demain, l'ensemble de la filière automobile, qui est un peu les états généraux de la filière.
Alors, états généraux de la filière, vous avez vous-même eu d'importantes responsabilité ministérielle, Luc Châtel. Que demandez-vous aujourd'hui, finalement, au pouvoir politique ? De ralentir le rythme ?
Non, ce que nous disons, c'est qu'il y a des conditions pour que la France soit encore dans le coup du monde automobile à 10 ans. Vous savez, c'est pas rien. La France a inventé l'automobile à la fin du 19e siècle. Elle a été une grande nation automobile au 20e siècle. Est-ce qu'elle sera dans le coup de la deuxième révolution automobile ? C'est pas gagné. Voilà. Et les conditions pour y réussir, c'est d'être capable d'attirer ces investissements du futur. Il y aura environ plus de 200 milliards d'euros investis dans l'électrique dans les prochaines années en Europe. Comment, alors qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée de la France en Europe dans l'automobile, c'est 9%, comment est-ce qu'on est capable de monter à 15%, à 20%? Comment on peut attirer 20% des projets de batterie en Europe? Comment on peut attirer 25% des projets d'hydrogène en Europe? C'est ça l'enjeu. Et donc nous avons, nous, la filière automobile française...
Vous êtes sûr qu'il n'est pas déjà trop tard?
Il n'est pas trop tard. Certains coûts sont partis. Les batteries, par exemple. Il y a une quinzaine de projets de gigafactory en Europe aujourd'hui. Nous en avons 2 ou 3 en France. Un qui est bien avancé, ACC, 2 qui sont en projet. Donc c'est très important qu'on soit capable de réaliser ces projets. Mais sur l'hydrogène, sur l'électronique de puissance, sur le véhicule connecté, nous avons encore des positions à prendre. Et pour ça, nous avons besoin d'investissements massifs. Et nous avons besoin de compétitivité. Il faut bien avoir en tête que malgré les efforts réalisés ces dernières années, notamment la baisse des impôts de production, il y a encore des écarts de coûts très importants entre le site France et d'autres sites, y compris l'Espagne. Il y a 40% d'écart sur la main-d'œuvre dans une usine automobile entre la France et l'Espagne.
C'est ma dernière question. Vous nous dites, nous avons le savoir-faire, je voudrais être sûr de vous avoir bien compris, mais il faut nous aider aujourd'hui et nous soutenir.
Voilà, ce que nous demandons au pouvoir public, c'est un partenariat avec les entreprises de l'automobile pour définir quelques grands projets d'avenir et faire en sorte que ces investissements nous permettent d'être dans le coup, dans la cour des grands de l'automobile de demain. C'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup Luc Châtel. Je rappelle que vous êtes président de la plateforme automobile PFA. Merci d'avoir pris la parole ce matin.
Merci
en direct
à vous.
Sur RTL. Dans quelques instants, la météo à 7 jours avec Louis Baudin. Et puis nous prendrons la direction du Texas où la législation contre l'avortement a été très largement durcie. On attend maintenant la décision de la Cour suprême pour trancher. Lionel Gendron est à Houston, au Texas. Il va nous expliquer tout ce qui se passe.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. RTL Matin.
8h29, bientôt 8h30, bah on va prendre un peu de temps pour évoquer notre météo à 7 jours, cher Louis Bonne. Je vous
Il va se passer beaucoup de choses encore ces prochains jours, c'est normal à l'automne, on alterne les périodes un peu calmes avec les périodes plus humides. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est plutôt l'humidité avec une perturbation, bon, pas très grosse, hein, fait 100 km d'épaisseur à peu près, qui va traverser toute la France, apportant des nuages et un petit peu de pluie. Après son passage, retour de quelques éclaircies, mais avec encore des averses dans le nord-ouest. Puis le soleil, avant l'arrivée de cette perturbation, résistera un peu mieux entre l'Alsace et la Méditerranée. Demain, bien cette perturbation va nous quitter par l'est, donc elle laissera encore quelques nuages, voire quelques pluies le matin dans ces régions du nord-est, mais progressivement par l'ouest, on retrouvera déjà du temps sec. Alors, il restera quelques nuages dans le nord-ouest, mais plus on ira vers le sud, plus il y aura du soleil. Un petit peu de vent près de la Méditerranée, températures bougeront assez peu, avec le matin quelques gelées là où le ciel sera dégagé, donc principalement dans le sud. Et puis l'après-midi, on sera encore une fois entre 14 et 17 degrés à peu près dans la moitié nord, jusqu'à 20 degrés dans le sud. Et puis mercredi et jeudi, bah, deux journées plutôt calmes, agréables, avec du soleil, avec peut-être quelques brumes le matin, mais ça disparaîtra rapidement. Il faudra en profiter, parce que alors, la fin de semaine s'annonce très désagréable. Je viens de regarder les derniers modèles, ça se confirme. Vendredi, retour des nuages, de la pluie, notamment dans la moitié nord. Il n'y a que la Méditerranée qui échappera. Samedi, c'est plutôt la moitié sud qui verra passer une perturbation active, hein, avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, du vent assez fort. Et puis dimanche, là, il y en a pour tout le monde, avec une petite tempête qui devrait balayer la France, hein, nuages, pluie, oui. Puis en début de semaine, ça sera accompagné d'un refroidissement. Donc ça nous plaît, de la neige en montagne. Ah. Elle pourrait bien tomber et commencer à tomber en abondance, mais on arrivera au mois de novembre, donc rien de plus normal.
Tout est logique.
Tout est logique.
Bon, bah, je vais rentrer mon bois.
Oui, c'est ça, il faut commencer.
Mon problème, c'est que j'ai pas de bois et que j'ai pas de cheminée.
Ah bon.
Voilà, il est 8h31, Louis Baudin nous annonce un automne avec le sourire. Bah, et c'est comme ça que nous allons le prendre, puisqu'RTL est à vos côtés.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde aujourd'hui au Texas. Nous partons aux États-Unis où dans une semaine, lundi prochain, très exactement, tous les yeux seront tournés vers la Cour suprême. En jeu, le droit à l'avortement. L'audience sera consacrée à la loi très restrictive du Texas. Lionel Gendron, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Vous revenez du Texas où il est déjà presque impossible en fait d'avorter dans cet état.
Oui, il est 14h au planning familial d'Austin et Sarah, une employée, me fait visiter des locaux déserts. Car depuis le 31 août, l'avortement est illégal à partir de 6 semaines. Or, près de 9 avortements sur 10 se font après 6 semaines où beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Le Texas imposait déjà des mesures traumatisantes.
Pendant l'échographie, le médecin doit obliger les patientes à écouter les battements du cœur du fœtus. Ils doivent aussi mettre l'écran en face du visage de la patiente pour qu'elle puisse voir le fœtus.
Et cette fois, les législateurs texans ont trouvé une astuce juridique pour éviter les recours contre l'État. C'est aux citoyens de faire la loi, de porter plainte contre une personne liée à un avortement. En récompense, $10,000 minimum. Un médecin peut être poursuivi, mais aussi un chauffeur de taxi qui conduit une femme dans une clinique. Deux hommes ont pour l'instant déposé des recours, dont Oscar Sillet. Il poursuit un médecin qui a pratiqué des avortements illégaux. Je l'ai joint dans l'Arkansas où il habite et il assume.
Oui, je le poursuis. Et oui, je suis prêt à recevoir $10,000 pour ça. Au moins 10 000, car il n'y a pas de plafond maximum. Bien sûr que je prendrai l'argent si on me le donne.
Mais que font les femmes qui veulent absolument se faire avorter?
Eh bien, elles vont dans des états voisins, mais il faut de l'argent, une voiture. Cette situation a poussé des élus américaines à témoigner il y a quelques jours au Congrès, dont Cori Bush, représentante démocrate, violée à 18 ans.
On vaut mieux que ça, et c'est pour ça que je suis là. En tant qu'infirmière, en tant que pasteur, en tant que mère célibataire et élue au Congrès, à l'été 1994, j'ai été violée, je suis tombée enceinte et j'ai décidé d'avorter. And I chose
to have an abortion. Mais des associations puissantes comme l'Alliance pour la vie au Texas déploient toute leur énergie et leurs dollars. Son président, Joe Pojman, souhaite une interdiction totale dans le pays, y compris en cas de viol.
Dans ce cas, nous avons deux victimes. La femme, certes, mais aussi cet enfant qui va naître. On ne peut pas prendre la vie de cet enfant en raison du crime de son père.
Et comme la Cour suprême est actuellement composée de 6 juges conservateurs et 3 libéraux, les anti-avortements savent que pour eux, c'est le moment d'agir.
Merci Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. Bien évidemment, nous suivrons la décision de la Cour suprême. Ce sera lundi prochain avec vous. Dans un instant, nous irons à Sarcelles, où les jeunes enfants apprennent le violon. C'est bon pour la concentration et pour la réussite scolaire, nous dira notre spécialiste Marie Guerrier. Isabelle Choquet nous fera découvrir la face cachée de la Une. Et Laurent Gérard sera de retour avec toute son équipe.
RTL Matin, Yves Calvi. RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est donc 8h36 et ce matin, Isabelle Choquet, les petits secrets d'une invention qui aura mis près de 20 ans à percer chez nous, le fameux QR code.
Oui, QR code ou Quick Response Code, le code à réponse rapide créé par un Japonais qui travaillait dans l'automobile. Libération l'a retrouvé et nous raconte son histoire. Nous sommes en 1992. Mmh. Masahiro Hara planche avec un autre ingénieur. Ils n'ont qu'un ordinateur pour deux. La bulle spéculative japonaise est en train d'exploser. Les patrons n'investissent plus dans l'innovation. Les deux gars cherchent un système qui permettrait d'accélérer le travail des ouvriers. À l'époque, toute la chaîne de production des voitures est gérée par des codes-barres. Mais ces codes-barres, ils ont une limite. On ne peut y stocker qu'une 20aine de caractères, des chiffres ou des lettres. Or, il y a de plus en plus d'informations associées aux pièces automobiles. Les emballages se couvrent d'une 10aine de codes-barres. Évidemment, c'est long à scanner. Masahiro et son collègue essayent donc de créer une sorte de super code-barre dans lequel on pourrait bourrer un max de données. L'inspiration va venir du Go, ce jeu de société chinois avec des pions blancs et noir sur un quadrillage. Je me suis très vite aperçu qu'une structure en deux dimensions permettrait d'inclure plus d'informations, dit l'ingénieur. De fait, un QR code abrite jusqu'à 4296 caractères alphanumériques, c'est-à-dire 200 fois plus qu'un code barre. L'idée du carré est là, mais il y a un autre problème. Il faut qu'une caméra le reconnaisse pour le scanner. Il faut un signe distinctif. Masahiro se lance alors dans un travail de fourmi. Pour chaque langage, chaque écriture, il analyse la proportion de blanc et de noir. Et au bout d'un an, il trouve une combinaison unique au monde. Les 3 petits carrés qui marquent les coins de tous les QR codes. Vous en garderez, ils y sont. En 94, enfin, son invention est prête. Et au Japon, ça cartonne. Il faut dire que le QR code a un autre énorme avantage. Même abîmé à 30%, il reste opérationnel alors qu'un code barre est raflé. C'est illisible. Le petit carré fait le bonheur de Toyota, mais très vite, il sort de l'usine. On le retrouve sur des affiches de pub, sur des crayons. Masahiro s'en étonne encore. Des hôtesses de bar avaient des QR codes tatoués sur leurs bras pour donner leur numéro de téléphone et des informations personnelles. Si. La Chine, la Corée, Taïwan s'y mettent, mais il faudra attendre les années 2010 pour que le QR code prenne son envol hors d'Asie, quand les iPhones enfin proposent des caméras capables de les lire. Et pendant ce temps, chez nous en Europe, rien. L'invention est jugée futile. Et puis soudain, la pandémie, le vaccin, le pass sanitaire, le succès planétaire, un succès qui amène aussi quelques ennuis, des QR codes volés, revendus, des faux QR codes qui renvoient vers des sites d'hameçonnage. Bon, l'invention est en train de montrer ses limites en termes de sécurité, mais à 60 ans passés, Masahiro Hara n'a pas dit son dernier mot. Il vient de mettre au point le SQRC, un QR code qui permet de cacher une partie des informations qu'il contient. Il réfléchit aussi à un QR code qui pourrait contenir des images, des radios, des électrocardiogrammes. En cas d'urgence, dit-il, ça pourrait sauver des vies. En tout cas, ça ne lui fera pas gagner la sienne. En 99, l'ingénieur a placé son invention sous licence libre. Autrement dit, le Covid ne lui a pas fait gagner un yen. QR code, la grande histoire du petit carré, récit complet à lire dans Libération ce matin.
C'est passionnant, merci beaucoup et à demain matin, Isabelle.
À demain.
RTL, vous êtes comme ça.
Réduire les inégalités et lutter contre l'échec scolaire grâce à l'apprentissage du violon. C'est l'objectif du programme Un violon dans mon école. C'est un programme qui concerne aujourd'hui 4000 élèves en réseau d'éducation prioritaire. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Vous nous emmenez à Sarcelles, dans le Val d'Oise, où 85% des écoles bénéficient de ce programme.
Un programme sur 4 ans. 4 ans de violon. L'apprentissage commence à la maternelle, en moyenne section, et se poursuit à l'école primaire jusqu'en CE1, comme dans cette classe de l'école Albert Camus.
Bonjour l'école, l'école de mon violon.
J'aime tout ce qui est dans le violon.
L'archer, les cordes.
Le son, c'est beau.
Bonjour le sol.
Voici Delphine, l'une des profs de violon.
Pose l'archer sur la corde 2.
C'est une pédagogie de groupe. Ils s'aident, ils s'entraident, ils sont très à l'écoute les uns et les autres. Camilla, l'enseignante de CE1, voit des effets sur les apprentissages scolaires.
J'ai déjà eu des classes qui n'ont pas fait de violon du tout. C'est vrai que c'est super intéressant de voir la différence. Ils progressent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus attentifs. Cette rigueur, cette discipline, ils sont un peu plus soigneux aussi. Je pense que ça vient du fait que voilà, les professeurs de violon leur disent « attention à l'archer, faites attention au violon, les cordes ».
Il ne faut pas le faire tomber parce que c'est fragile.
On se lève car on prend toujours son violon debout.
C'est maintenant un cours avec des plus petits.
On positionne le violon sur la bonne épaule.
L'épaule gauche.
L'épaule gauche. Très très bien. On y va. Sur le mi.
Qu'y a-t-il, mon petit chagrin ?
Au départ, ils n'utilisent que leurs doigts.
Après, on va apprendre à tenir l'archet. Pour l'instant, c'est pizzicato.
Les élèves de Julie font du violon en moyenne section à l'école Bois-Joli.
Pincer les cordes, ça leur fait travailler la motricité fine. Ça permet de tenir correctement le feutre ou le crayon pour bien écrire.
Les cours de violon ont lieu sur le temps scolaire et c'est un travail de coopération entre les musiciens et les enseignants.
Nous partons d'un thème et nous essayons d'enrichir ce thème. Nous, en emmenant des jeux musicaux, les enseignants avec du vocabulaire. Et nous nous réunissons à peu près tous les mois.
Construit en partenariat avec l'Éducation nationale, un violon dans mon école est financé par la Fondation philanthropique de Pierre et Hélène Vareil, qui a recruté les 80 profs de violon.
On a visité une fois, mon mari et moi, un petit peu par hasard, une classe en Angleterre dans laquelle il y avait la pratique du violon depuis l'âge de 4 ans. Une idée intéressante que nous allions nous employer à mettre en œuvre avec la démonstration de ses effets positifs.
Une étude est menée par une équipe de chercheurs de Sciences Po et du CNRS pour mesurer l'impact du programme sur le développement des enfants entre 4 et 8 ans. Est-ce que vous êtes fière de pouvoir jouer du violon ?
Oui. Même ma mère, elle est plus fière.
Les trois enfants de Linda bénéficient de ce programme.
Franchement, j'aurais jamais imaginé inscrire mes enfants au violon. C'est inaccessible, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je suis vraiment contente.
Un violon dans mon école ambitionne de toucher 10 000 élèves en 2025.
Vous êtes comme ça, un violon dans mon école, ce matin à Sarcelles. Merci beaucoup Marie Guerrier. Dans un instant, on va retrouver Laurent Gérard avec toute son équipe sur RTL. Bonne journée à tous.
Yves Calvi, RTL Matin.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Il est 8h46.
Et voilà, et ben voilà.
Nous sommes étreints de bonheur. Je ne sais pas comment présenter les choses. Soyons simples et sobres. Bonjour Laurent Gérard.
Oh, RTL, rigoler ensemble. Bonjour Yves Calvi. Bonjour, heureux de vous retrouver.
Bonjour chère mademoiselle.
Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. Après une longue réflexion, le gouvernement a donc décidé de compenser la hausse du prix de l'essence par un chèque de 100 euros. Le Premier ministre Jean Castex nous commente cette mesure. Bonjour monsieur le Premier ministre.
C'est à moi. Je peux y aller ?
Oui.
Il n'y a pas le petit signal qui me dit que c'est bon. Hein ?
Voilà, ça va mieux.
En responsabilité, devant la hausse astronomique des carburants à la pompe, j'ai sorti le stylo et j'ai envoyé un chèque de 100 euros. Aux Français, quoi qu'il en coûte.
Voilà une mesure qui devrait être plutôt populaire. Mmh. Tout le monde est concerné ?
Tout le monde, même ceux qui ont une automobile à pédale. À condition de ne pas gagner plus de 3 fois le plein de 100 plombs par mois. Mais ce n'est pas tout. La semaine dernière, j'ai aussi envoyé un bouclier tarifaire aux Français.
Oui, on s'en souvient du bouclier. C'était pour se défendre contre la hausse du gaz et de l'électricité.
C'est ça. C'est ça.
Oui, merci.
En responsabilité. Après le chèque anti-hausse et le bouclier tarifaire, je travaille actuellement sur un sabre discount.
C'est Avengers.
Pour couper la hausse des prix, ainsi que sur un collier bloqueur qui protège les locataires contre l'augmentation des loyers. Il y en a là-dedans, non ?
Oui, excusez-moi monsieur le Premier ministre, mais tout ça ne fait pas un peu gadget bricolé en vue de la présidentielle ?
Pas du tout. Les Français veulent du concret et c'est ce que nous leur donnons. Très bientôt, ils recevront le stylo à encre invisible pour régler leurs factures sans douleur. Il suffit ensuite de chauffer l'encre pour faire apparaître la somme.
Bien. Eh bien, merci pour toutes ces bonnes nouvelles, Jean Castex.
Et pour Noël, c'est important, ça approche. En plus du coutelas de Raon pour couper la dinde et du lance-spaghetti,
Nous leur enverrons des pois sauteurs du Mexique et des pifis à élever dans l'eau minérale.
C'est tout pif gadget.
Mais voilà.
Il était l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure sur RTL. Affronté. Oui, bonjour. Est le titre de son nouveau livre où il se montre particulièrement belliqueux vis-à-vis de la classe politique. Heureuse que vous soyez resté avec nous, François Hollande.
Salut poupée. Je suis resté pour tes beaux yeux. Oui. Parce que je sens bien que t'es croque-love de moi.
Ah.
Et t'es pas la seule. Mmh. Dans les couleurs d'RTL ce matin, j'en ai fait chavirer de la mignonne.
Ah oui.
Chacun de mes pas, ça tombait comme un gravelotte. J'y peux rien, je suis un bourreau des cœurs. Un fantassin de l'amour.
Oui.
Une bombe à retardement. T'approches pas trop de moi, ça fait tic-tac.
Croyez-moi, je me protège. Revenons plutôt sur votre livre qui s'appelle donc Affronter.
Mmh. Ça y est, le dab est de retour. Mmh. Au départ, je voulais l'appeler Désinguer, mais mon éditeur a eu les jetons.
Bon, vous avez de nouveau l'air très offensif.
Affirmatif. Mmh. T'as vu l'état de la France ? Mmh. Y a du ménage à faire. Et je me suis dit, ça, c'est un boulot pour Bibi, pour Fanfan la gâchette.
Eh bien, entrons dans le vif du sujet, justement. Dans ce nouveau livre, vous comparez Emmanuel Macron à, je cite, « un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars ».
Ben quoi la môme, c'est plutôt flatteur, non ? C'est bon les grenouilles, en persillade, cuite au beurre mousseux, il faut que le beurre chante. Mais bon, rassurez-vous, je vais pas manger Macron. Ses cuisses, c'est comme son programme. Il n'y a rien à becter.
Bon, venons-en à Éric Zemmour. Vous écrivez à son sujet, n'est pas Trump qui veut, même en miniature.
Oh, oui, je sais. C'est pas fair play d'attaquer les gens sur leur physique, non. Mais non. Là, c'est trop tentant.
Ah.
50 kilos tout mouillé, c'est pas l'Élysée qui devrait essayer de prendre... C'est le muscle. Il est tellement maigre qu'on pourrait le faxer.
Vous n'épargnez pas non plus la gauche, puisque vous écrivez, deux points ouvrez les guillemets, à gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes.
Mais alors, bah quoi ? Jadot, Mélenchon, Roussel, Poutou. Hein ? Je les vois bien, conseiller municipal à la mairie de Mortagne-au-Perche. Mais pas président de la République. Le costume est trop grand pour eux. Et je sais de quoi je parle.
Mais alors, Anne Hidalgo, c'est la seule que vous épargnez un peu dans ce livre, même si vous lui reprochez de ne s'adresser qu'aux Parisiens.
Ben oui, c'est pas avec les bobos à trottinette qu'on gagne une élection. C'est avec la France des régions. Mais ça, elle connaît pas la bourgeoise. C'est pour ça que je l'invite une journée à Tulle pour la former.
Ah bon, et quel sera le programme de cette formation ?
Je te le donne, la môme. Le matin, café Calva au Balto, en remplissant la grille du tiercé. Le midi, entrecôte au Buffalo Grill avec râpe de frites. L'après-midi, opération relooking chez Kiabi, Léa le chaussure et coiffure Jocelyne. Et le soir, grand loto à la salle des fêtes Robert Hossein. Si elle arrive à gagner le filet garni, elle gagnera l'élection.
Ah, il est temps de retrouver Pascal Pro en duplex de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Quels sont vos invités du jour, Pascal ?
Eh bien, je recevrai Riton, Bébert et Dédé du café Le Balto.
Bah, vous êtes de moins en moins regardant sur la qualité de vos chroniqueurs.
Ce ne sont pas des chroniqueurs, ce sont des maraîchers. Ils sont juste venus jeter des tomates pourries sur Laurent Geoffrin.
Vous êtes cruel, Pascal. Parlez-nous plutôt du sommaire des auditeurs. On l'a parole ce midi sur RTL.
Et bien, nous parlerons du chèque cadeau de 100 euros offert par Jean Castex à tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Mmh. Chèque cadeau valable dans tous les magasins La Redoute, CA et Kiabi. Mais les Français l'utiliseront-ils pour s'acheter une veste toute neuve à la place de leur gilet jaune ? Je pose la question au 3210.
D'accord, quoi d'autre ?
Eh bien, nous évoquerons également une information très commentée ce week-end sur les chaînes d'info. Hein. Vous avez dû voir, l'iPod d'Apple fête ses 20 ans, a fêté ses 20 ans hier.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je pose la question au 3210. Il faut des belles générations de crétins.
Voilà, drôle de question, mais au moins, elle nous change un peu d'Éric Zemmour. Hein.
Puisque vous en parlez.
Ah, voilà.
Selon un sondage du CEVIPOF pour Le Monde, Éric Zemmour serait au second tour si l'élection présidentielle avait lieu demain. Faut-il organiser l'élection présidentielle demain ? Je pose la question au 3210. Mais moi, en tout cas, je suis prêt à aller voter. Oh.
Justement, face à la percée dans les sondages du polémiste Éric Zemmour, certains médias s'interrogent sur la façon la plus objective de traiter cette quasi-candidature. On en parle avec un grand professionnel, le directeur de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Faugiel.
Non mais j'hallucine, la fille à RTL, elle me demande si on parle trop d'Éric Zemmour, alors que c'est elle qui a commencé à en parler avec sa question over-agressive. Non mais elle se prend pour Élise Lucet maintenant.
Non, pas du tout. Je vous demandais seulement si vous pensez que les médias doivent relayer tous les faits et gestes d'Éric Zemmour alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat.
Oh, je rêve. Quand Zemmour il est venu sur BFM face à Mélenchon, on a fait 4 fois plus d'audience que France 2 avec son débat tout pourri entre Valérie Pécresse et Gérard Tartarin.
Non, Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, oui. Vous voulez dire.
Ouais, c'est ça. Les deux has been no life, bah, tout le monde se fout. Il n'y a que dans les EHPAD où on ne peut pas changer de chaîne que les gens regardaient en roupillant. Alors que nous, avec Zemmour, on était number one, c'était notre best audience ever.
D'accord, ever. Donc selon vous, les médias n'en font pas trop autour d'Éric Zemmour, c'est ça?
Non, mais enfin, la fille RTL, elle a encore rien vu. Je crois que tu sais même pas qu'on va faire de nouvelles chroniques. La météo de Zemmour, la cuisine de Zemmour, le tiercé de Zemmour, l'horoscope de Zemmour. On va aussi faire les stories spéciales, la story Zemmour et Elisabeth II, la story Zemmour et Dupont de Ligonnès. La story Zemmour contre la créature de Roswell. Et la story sexy, faisons Zemmour avant de dormir.
Ah non, d'accord. Merci Marc-Olivier Faugiel. On a bien compris qu'on n'avait pas fini d'entendre parler d'Éric Zemmour.
Et une fois que Zemmour sera candidat, on va lancer la candidature de Nabila pour avoir des débats sur BFM entre Zemmour et Nabila. Où on s'emmerde pas, il sera leader sur le prime, on sera leader sur le prime.
C'est déjà terminé?
C'est fini.
Oh, et non. Dites donc, vous voulez nous rappeler vos copains du Balto, comment ils s'appellent déjà?
Dédé, Robert.
Vous les connaissez?
Non, mais ça m'intrigue.
Mais si. Riton, Bébert et Dédé.
Les trois gars du Balto.
Les maraîchers.
Voilà. Vous savez, ils peuvent vous retrouver à tout moment sur le site RTL.fr et dans quelques instants, ils seront bien contents d'être avec Cyril Lignac.
Bah oui, il a besoin de maraîchers. Qu'est-ce qu'il nous fait à midi la ici,
on va faire un petit foie de morue.
C'est bien. J'adore ça.
C'est vrai?
Fumer avec un peu d'huile de citron, c'est bon.
C'est merveilleux parce que Cyril.
Non, mais je ne vais pas dire moi.
Parce que si vous êtes comme moi, Cyril, et que vous détestez ça, il va falloir qu'on.
Mais j'adore ça.
Beaucoup de bonne volonté pour donner la recette. Mais j'ai trouvé une bonne recette pour effacer un peu le goût.
Ah, c'est sympa.
C'est merveilleux.
Je sais, avec une petite tranche.
Mon Cyril, il est transparent. Voilà. Voilà un homme qui est transparent.
N'effacez pas le goût de l'andouillette, en tout cas.
Non, comptez sur nous. Il est 8h56, à tout de suite avec Cyril Lignac et merci à toute l'équipe.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24. Rendez-vous sur RTL.fr. RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril, on vous retrouve et vous répondez à Bertrand qui vit à Massy dans l'Essonne et qui vous dit « Bonjour la matinale, j'adore le foie de morue, mais comment en faire une recette facile et succulente? J'ai l'habitude de le mettre dans une salade composée et j'aimerais bien un peu de fantaisie. Merci d'avance pour vos excellents conseils. »
Alors, comme c'est pas ma grande passion, je me suis dit qu'on allait faire un houmous.
Voilà.
Et ça, c'est super bon. Pois chiche mixé avec un petit peu de tahine, cette pâte de sésame, du jus de citron. On garde le jus des pois chiches pour détendre un petit peu la pâte. On ajoute une boîte de foie de morue. Alors, un peu comme on veut. Si on veut que ça sente un peu fort, on en met un peu plus que si on l'aime un peu moins. Et ensuite, on mixe bien tout ça. Et là, on le met... Alors, soit un apéritif avec un peu de pain pita, soit je le tartine au fond d'un plat, je mets 2 œufs durs, des petits pois chiches, et ça peut nous faire une belle entrée.
Ah, c'est assez sympathique la dernière proposition.
Et oui, parce que ça change en fait du traditionnel roumousse que l'on aime bien manger comme ça. Donc, c'est vrai que moi, je confesse que c'est pas mon plat préféré.
Non, moi non plus.
Et quand j'ai vu, il va falloir travailler le foie de morue, je me suis dit quelle recette je vais bien pouvoir faire. Donc je vous ai sorti le petit houmous.
C'est pas mal du tout. Je vois que Laurent Gérard est d'accord lui aussi.
Oui, moi je fais avec du pain grillé, la petite boîte un peu fumée, et puis avec un petit peu de citron, c'est très bon à l'apéro aussi.
C'est parfait. Dans tous les cas, on retrouve les recettes sur le site RTL.fr.
Surtout que 9h, c'est l'heure de l'apéro, on va pouvoir s'y mettre.
Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il est 9h.
RTL Matin. Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Alexandre Saint-Aignan.
Des gros bouchons en Île-de-France ce matin, conséquence de la fermeture de l'autoroute A13 dans les deux sens. Ça dure depuis hier après-midi. Le tunnel de Saint-Cloud inaccessible à cause d'un vol de câble. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il pourra rouvrir à la circulation. Comment faire pour atteindre la neutralité carbone en 2050? Le gestionnaire du réseau électrique français RTE dévoile son rapport dans une heure. 6 scénarios différents qui devront servir de base au gouvernement pour définir la trajectoire énergétique de la France. Un coup d'État au Soudan un mois après une tentative de putsch ratée. Le chef du gouvernement et la plupart de ses ministres ont été arrêtés par des hommes armés. Le pays est tiraillé par des tensions entre les militaires et le gouvernement civil depuis plusieurs semaines. L'accès à Internet a été coupé dans tout le Soudan. Les États-Unis expriment leur profonde inquiétude. Et puis en football, le classique entre le PSG et l'OM marqué hier soir par des incidents au stade Vélodrome. 21 supporters interpellés, 9 policiers blessés dans des affrontements avec des personnes qui voulaient entrer dans le périmètre du stade durant la première mi-temps. Le match qui s'est terminé sur un score vierge 0-0.
Alexandre de Saint-Aignan.